Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
20h30, 22h. Malik Eudy. Au bout du foot, 30 secondes chrono. Au bout du foot, quel choix pour quel résultat? Retrouvez chaque lundi Malik Eudy et toute la team d'Au bout du foot entre 20h30 et 22h sur Mon Paris FM.
Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Vous êtes sur Mon Paris FM, vous êtes dans Au bout du foot, 20h30, 22h, 1h30, hein, comme un bon match de football, 90 minutes non-stop. Nous allons ensemble égrener l'actualité du football ici et même ailleurs. Avec moi ce soir, mes amis, j'ai envie de dire de tous les lundis soirs avec des invités. Entre autres, on va dire aussi que notre ami Jason Lindor réalise Au bout du foot de ce soir. On va commencer à saluer. Tiens, on va commencer par nos invités. On va dire bonsoir à notre ami Guy Meslin. Guy Meslin est journaliste, l'équipe.
Enfin, l'équipe.
France Football, l'AFP.
Oui.
Et puis directeur de la communication aussi au niveau
après,
de la Ligue.
Hein. La Ligue,
n'est-ce pas ? Bienvenue à toi, Guy, et merci d'être là avec nous.
Et merci, merci de m'avoir invité.
Également, notre ami amateur de football, supporter du PSG, on peut le dire. Hein. Salut, Salé.
Salut, Malik, ça va, tu vas
ça
bien ?
Ça va, tu vas bien ?
Ça va, ça
la
va.
Forme ?
Nickel.
Bah, super bien, bienvenue à toi dans Au bout du foot. Et il est là aussi, notre ami chroniqueur sur Mon Paris FM, chroniqueur foot. Salut, Eladj.
Salut Malik.
Ça va bien ?
Ça va très bien et toi ?
Bon week-end de foot aussi ?
Bon, très bon week-end de foot.
Bah, ouais. Tant mieux, alors on sent qu'on va, on aura du débat. Également notre ami Aboubakar, notre chef, hein, tout simplement. Salut Abou.
Salut Malik.
Bien, la forme ?
Ouais, ça va.
Bah, bienvenue dans Au bout du foot. Et Ibrahima, bien sûr, t'es là aussi. Hein.
Oui, c'est ça, je suis là.
Ouais, ça va, t'es de mon côté. Ça se passe bien.
La question, franchement, t'es là, il est en face de lui.
Et puis, notre ami Stéphane Desenclos, depuis le téléphone, c'est bien ça Stéphane? Bon, on n'entend pas Stéphane visiblement, hein, donc on va rétablir la liaison. Moi je l'entends pas, j'ai pas de retour. Stéphane Desenclos justement de Mon Paris, du quotidien du sport plus précisément, arrive dans quelques instants dans notre émission Au bout du foot. Vous l'aurez entendu, hein, chers amis, aujourd'hui le sommaire il est hyper chargé. À noter également que notre ami Philippe Carnu viendra nous rejoindre dans quelques instants. Le temps pour lui de se désaltérer, il vient juste de finir Mon Paris Sport. Tout de suite, on enchaîne avec le sommaire.
Au sommaire d'Au bout du foot de ce lundi 27 novembre, 30 secondes chrono. Quel est le fait majeur foot de nos chroniqueurs en 30 secondes? La réponse dans quelques instants. Ligue 1, plus rien ne va chez nos Olympiques. L'Olympique de Marseille en très grande difficulté. L'Olympique lyonnais n'y arrive toujours pas. Quelles conséquences pour notre championnat? Nice, meilleure défense d'Europe. Le Paris Saint-Germain qui domine Monaco. Au bout du foot, analyse les différents cas des clubs cités. Stade Rennais, le retour de Julien Stéphan sur le banc du désormais 10e de la Ligue 1. Est-ce le signe d'un manque d'imagination dans le choix des entraîneurs pour nos clubs français? Au bout du foot, se prononce. Coupes européennes. Quelle semaine pour nos clubs en Ligue des Champions et en Europa League. Paris peut-il se qualifier dès ce mardi? Le RC Lens peut-il répéter son exploit contre Arsenal? La forme retrouvée de l'Ajax d'Amsterdam doit-elle inquiéter l'Olympique de Marseille? Au bout du foot, donne ses réponses. Quel choix pour quel résultat? Jonathan Clauss en pleine bourre en club comme en sélection. L'équipe de France a-t-elle enfin trouvé son latéral droit? La question est posée. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud. Situation très délicate pour le Brésil. 3 défaites consécutives, 6e des qualifications. Absence de Neymar et absence d'un vrai sélectionneur. Faut-il craindre une non-qualification de la Seleção pour la Coupe du Monde 2026? Au bout du foot, fait le point. Euro 2024 en Allemagne, le point sur les équipes déjà qualifiées pour l'Euro. Qui sont les grands absents? Au bout du foot, commentaires, analyses, décryptages, pronostics. Bienvenue.
20h36 minutes sur Mon Paris FM, sommaire hyper chargé. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la chronique 30 secondes chrono. 30 secondes chrono, hein. Quels sont les faits majeurs de nos chroniqueurs, les faits footballistiques bien entendu. C'est parti.
Au bout du foot, 30 secondes chrono.
30 secondes chrono, on va commencer, hein. On est galant ici avec nos invités. Salé, t'es 30 secondes chrono.
Alors moi je parlais d'Ousmane Dembélé, moi je suis un très grand fan d'Ousmane Dembélé, il était très critiqué depuis le début de saison par son manque d'efficacité, ses stats et sa nonchalance. Et j'ai pu voir depuis le Milan AC qu'il est plus enjambé, il est plus efficace dans ses dribbles, il est meilleur dribbleur de la Ligue 1 dans le championnat, il est plus efficace devant le but aussi, ses 4 derniers matchs c'est 2 buts, une passe décisive et je pense qu'on va sur les prochains matchs, les prochaines semaines on va voir Ousmane Dembélé plus libéré et meilleur.
Alors il y a un bémol à observer. Est-ce que quelqu'un a un bémol? Parce que si c'est pour dire la même chose, c'est pas la peine, hein, les amis. Il n'y a pas de bémol? Tout le monde est d'accord, hein, Ousmane Dembélé revient bien. Stéphane Desenclos?
Ouais, moi je dirais qu'il n'est jamais parti. Hein. Il a juste raté des buts.
Mais non. Fait, on n'est pas encore dans les 30 secondes, mon cher Jason, s'il te plaît.
Ah, pardon.
C'est juste une réaction. C'est au niveau de Jason, l'erreur, en fait. Ah, ouais, mais, donc tu peux réagir, Stéphane.
Non, mais je disais que pour moi, il n'est jamais parti, vraiment. Hein. Il est... C'est un truc de journalisme, d'observateur, ce qu'il a toujours fait, autant à Colomoigny, à un Ramos peut-être, des fois, on attendait mieux, mais lui, il n'a pas eu de chance, et puis il est là depuis le début, il nous enchante quand même sur le terrain, c'est quand même un enchanteur, quoi, ce joueur, c'est un magicien, c'est un enchanteur du foot, quoi. Donc, tant mieux qu'on puisse le laisser un peu tranquille parce qu'il a enfin réussi à marquer un but, quoi. Mais comme vous avez remarqué que c'est un but quand même que très peu de gens auraient pu marquer, quoi.
Fin du 30 secondes.
Sans pas 7 minutes chrono.
Fin du 30 secondes, monsieur.
Non, mais là, c'était juste une réaction, c'était pas le 30 secondes. Voilà, c'est pas son 30 secondes.
Mais il a duré plus longtemps que le 30 secondes de Salé.
Cela dit, Stéphane, il marque le même but que Colomoigny en sélection, hein. Quasiment.
Oui, le même.
C'est le même but, hein.
Absolument.
Il n'y a peut-être pas le contrôle et l'accélération.
Ah, voilà. Ça y est, je l'ai branché, là. Il va rentrer dans le détail maintenant. Bon, écoute, c'est pas plus bas.
Moi, que j'y reprends,
30 secondes chrono pour toi, mon cher Guy.
Bah, moi, je voudrais parler surtout de l'échéance du PSG demain au Parc des Princes contre Newcastle. Parce que je crois que c'est peut-être le match le plus important pour le PSG depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que le PSG n'a que 6 points dans un groupe qui est extrêmement serré et difficile. Et que je crains qu'en cas de pépin contre Newcastle, on ait une sacrée désillusion cette année.
Voilà, ça fait 40 secondes. Comme tu es notre invité aujourd'hui, on t'a laissé Guy. Mais en tout cas, tu as quelques réserves, hein, par rapport au match de demain. Tu as une forme d'appréhension, c'est bien ça.
Appréhension, ouais. Mais quand même optimisme derrière.
Bah, qui c'est qui a les mêmes appréhensions que notre ami Guy, où vous êtes tous confiants ici, là, autour de la table?
Non, pas forcément.
Ibrahima?
Non, je suis pas spécialement confiant. Et comme il l'a dit, je pense que ça va être le match de la saison pour l'instant. Et le résultat aura un impact énorme sur le reste de la saison et sur l'avenir du PSG en cette saison 2023-2024.
Abou ?
Ouais, je partage l'avis d'Ibrahima.
Bon, allez, Stéphane Desenclos ?
Non, mais moi, c'est pas moi qui dois parler, c'est Ladj, parce que Ladj, il a dit que le Paris Saint-Germain ne battrait jamais Newcastle. Donc,
non, c'est faux. Lui, bah, tu sais.
Stéphane, on va gagner du temps. Parce que là, c'est de la provoque.
Non, mais Stéphane. Non, mais Stéphane, c'est simple. Tu sais que ça existe. On est en 2023. Maintenant, ça existe les podcasts. C'est encore enregistré. Du coup, je voudrais bien que tu me montres cet endroit-là où je dis ça. Où je dis que Paris ne battra jamais Newcastle.
C'est pas longtemps
que
tu l'as dit, c'est
vrai. Ah ouais,
donc ça fait comme si ça n'a pas existé. Ah ouais, mon cher Stéphane.
Ça n'a pas existé.
Ça n'a pas existé, mon cher Stéphane.
J'ai jamais dit ça, mais par contre, mon avis.
Est-ce que tu as des appréhensions, Eladji, par rapport au PSG?
J'ai strictement aucune appréhension. Je suis toujours sur mon idée, si je me souviens bien de ce que j'avais dit. Dans les toutes premières émissions, c'est-à-dire premier PSG, deuxième Milan AC, troisième Dortmund et Newcastle pas qualifié. D'accord. Pour le classement général du groupe.
Bon, maintenant.
Je maintiens toujours cette ligne de conduite.
D'accord. Donc
J'ai pas peur du tout. Maintenant, en foot, tout peut arriver. En foot, tout peut arriver. Annecy peut même battre l'OM en Coupe de France. Donc, tout peut arriver.
La balle perdue pour l'OM, on sait même pas pourquoi on parle de la Coupe de France puisque là c'est la Champions, mais bon, c'est pas grave.
Bon, on va enchaîner les amis, parce que là on tourne en rond, on va partir pour le 30 secondes chrono avec Eladj. Ton 30 secondes chrono, Eladj.
Bah moi mon 30 secondes il va être expéditif, aussi expéditif que la rentrée d'André Ayew ce week-end face au Nantes. Et moi voilà, vraiment mon coup de cœur ça a été Garnacho qui a mis un superbe retourné contre Everton et d'ailleurs United qui enchaîne encore. Et franchement, avec la célébration derrière de CR7, c'est juste incroyable. Voilà.
Merci, Eladj. Une réaction, le retourné, Garnacho, tout le monde a vu un excellent, joli but. Hein.
Très beau but.
Exceptionnel. Sûrement pris Puskas. Très, très beau but.
Et premier but de la saison pour Anthony Martial aussi.
Ah oui, ça aussi, c'est pas faux. Hein. Il était vraiment... C'est une période assez creuse. 30 secondes chrono pour toi, Ibrahima. C'est parti.
Alors, pour moi, dans mon 30 secondes chrono, je voulais parler de l'OGC Nice. L'OGC Nice qui est sur 12 matchs sans défaite cette saison en Ligue 1 Uber Eats et qui se classe en deuxième position de Ligue 1 derrière le PSG. C'est vrai que la saison passée, c'était pas mal compliqué. Il y avait eu un changement de coach avec l'arrivée de Didier Digard. Ils avaient fini 9e de Ligue 1. Et cette année, avec l'arrivée de Francesco Farioli, qui n'était pas forcément connu du grand public, bah on voit que les résultats s'améliorent. Malgré un jeu qui n'est pas forcément flamboyant, on voit que c'est très efficace et avec une défense très solide, notamment.
Ibrahima, t'as pas révisé. Hein. On a dit pas de 30 secondes chrono des sujets évoqués dans le sommaire. Là, t'as parlé de Nice. Hein. T'as pas été très attentif pour le coup. 30 secondes pour toi, mon cher Abou.
Mis 30 segundos para felicitar a Griezmann. Je vous le fais même avec l'accent espagnol. Griezmann, encore buteur ce week-end contre Mallorca. Griezmann qui en est déjà à 9 buts en championnat, qui en est déjà à 14 buts, toutes compétitions confondues, qui est plus qu'à 3 buts du record de Luis Aragonés, qui a 173 buts avec l'Atlético. La renaissance de Griezmann qu'on a vu passer par des phases difficiles. Très heureux de le voir à ce niveau-là. Et il fera énormément de bien à l'Euro, lui qui arrive à pleine maturité.
Ah, je suis d'accord avec toi pour ce coup-ci. La réaction, hein, Griezmann, Antoine, hein, Griezmann, là-dessus, ça l'est. On est tous unanimes. Hein.
Bah oui, y a rien à dire.
Excellent
c'est
joueur.
Exceptionnel
hein.
Ce qu'il fait.
Est-ce que l'Atlético peut être champion d'Espagne?
Il y a le Real Madrid. Sinon, ça aurait été possible.
Ah bon? Ils sont encore en Liga?
En tout cas, on parlera de Madrid, quoi qu'il arrive, visiblement. Hein.
Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Il a dit est-ce qu'ils sont encore en.
Ils peuvent être à Madrid, quoi qu'il arrive. Mais non, je dis ça, est-ce qu'ils peuvent? Et puis. Pourquoi pas, à je sais pas, 30 ans, il a 31 ans, choper un ballon d'or derrière. Pourquoi pas, imaginons.
Calme.
Ah mais, non, mais avec Stéphane, tout le monde est ballon d'or. Il n'y a pas longtemps, il nous parlait d'Alvarez. Après, il a parlé d'Harry Kane.
Il est généreux.
Et là, maintenant, il est en train de nous parler. Tu fais deux matchs avec Stéphane, ça y est, t'es ballon d'or. Ah, Stéphane.
Non.
C'est vrai qu'Antoine Griezmann est excellentissime là-dessus, il n'y a pas photo. Mais laisse déjà qu'il gagne en sélection la Coupe d'Europe, qu'il gagne avec l'Atlético, ainsi de suite. Individuellement, il n'y a pas photo, il est excellent le garçon.
Il est bien trop tôt aujourd'hui, il y a une dizaine de candidats à France, et je pense que Griezmann il en fait partie autant que d'autres, même si, comme je l'ai dit déjà, ça pourrait ressortir du podcast, le grand favori pour moi, ça reste Harry Kane, mais c'est tout à fait, pourquoi pas, parce que c'est un truc de fou, faut rêver un peu des fois, faut sortir un peu, et pourquoi pas, quoi. Je veux dire, je ne sais pas combien ils sont de points, là, l'Atlético du Real, là, je n'ai pas le classement, mais ils doivent pas être loin du Real Madrid. Là.
Troisième avec une journée en moins.
Troisième à une journée en moins, c'est ça? C'est ça. Combien de points de différence?
4.
4 points de différence? Ok, bah écoute, c'est juste
avec
un match. Hein.
Avec un match de moins.
Ben, ça promet pour la suite de la Liga espagnole. Mon cher Philippe Carnu, oui. Bienvenue.
Oui.
Ton 30 secondes chrono, c'est parti.
Moi, c'est le mauvais état d'esprit qui a régné entre le Brésil et l'Argentine. Hein. Inadmissible d'avoir des matchs comme ça, et surtout donc au bord des terrains de foot. Je parle pas de résultat sportif, hein. Je parle de ce qui s'est passé dans ce match malsain.
T'emploies un mot fort, hein, malsain,
oui.
Tout simplement.
Ah oui, oui.
Ouais. Bon, écoute, pourquoi pas, c'est ton avis. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir là-dessus les amis? Non, personne. Je m'attendais à ce qu'un d'entre vous parle quand même de ce qui s'est passé.
J'ai pas parlé encore, moi.
Ah mais c'est vrai. Bah allez, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
T'as tellement parlé.
Non mais Stéphane, t'as tellement parlé que je t'ai oublié. En plus t'es au téléphone.
J'ai osé dire je n'ai pas parlé.
On aime bien te voir en studio, mon cher Stéphane. 30
okay,
secondes.
Okay. On m'a pas demandé mon 30 secondes. De toute façon,
non mais c'est pour toi là pour ce coup-ci. Vas-y, 30 secondes chrono, Stéphane.
Et moi, 30 secondes chrono, moi que je trouve hallucinant, c'est qu'il n'y ait pas de goal line technology en Grèce. Je trouve ça fou, quoi. La FIFA ou l'UEFA, je crois que c'est la FIFA qui accorde les licences, gagne des millions d'euros avec la Coupe du Monde et les compétitions à rallonge qui rajoutent tout le temps, et ils ne sont pas foutus de payer 150 000 ou même 200 000 euros pour équiper un stade qui abrite des matchs. Imaginez une seule seconde que le match il ait été décisif pour la qualification pour l'Euro. Moi, je trouve ça, j'arrive pas à...
C'est fini, hein, Stéphane. La question est posée, effectivement. Les amis autour de la table, vous souhaitez réagir ?
Non, mais ça a toujours été le problème de la FIFA et même de l'UEFA. Il y a des compétitions, elles commençaient sans goal line, elles finissaient avec la goal line. C'est problématique et c'est quelque chose à corriger parce que pour l'équité sportive, c'est pas du tout correct.
Mm-hmm. Ben, comme je disais, hein, je pensais qu'un d'entre vous aurait évoqué la situation qui s'est déroulée... entre Brest et Montpellier,
ah oui.
Hein, il y a le,
oui,
caillassage. Car brestois, encore une fois, qui a été caillassé. Il y a des pavés qui ont été jetés depuis le haut d'un pont sur les supporters brestois. Franchement, c'est quelque chose qui revient souvent. Et il va falloir quand même, à un moment donné, on s'arrête là-dessus pour que les déplacements des supporters puissent continuer. Parce que, à l'allure où ça va, je pense que de façon globale, ça va intervenir. Et quand ça va tomber,
oui, mais
ça
quand...
va être une interdiction totale. Hein,
est-ce qu'on est au courant de ce qu'ils ont pris Est-ce qu'on est au courant de ce qu'ils ont pris, ceux qui avaient caillassé le bus Leni à Marseille?
Mais justement.
On n'est pas au courant, justement.
On n'est pas au courant.
L'État ne communique pas dessus.
Et ça continue.
Mais bah, voilà.
Les gens, ils ont pas peur. Parce qu'il n'y a pas eu une prise de décision, j'imagine.
Donc voilà.
Oui, Guy.
Quand vous voyez la décision prise par la commission de discipline de la LFP sur le match Marseille-Lyon, où on autorise Marseille à rejouer chez lui avec du public, alors après ce qui s'est passé au mois d'octobre, c'est un peu scandaleux. Si la discipline n'est pas capable de prendre des sanctions sur un fait aussi grave que cela, on a quand même eu un entraîneur avec la tête en sang. Et c'est tout ce que ça leur fait. Non, c'est pas normal. Derrière, eh ben, qu'est-ce qui se passe?
Il a été évoqué, mon cher Guy, dans le micro, plus proche du micro, oui. Il a été évoqué que justement, cette scène s'est passée en dehors
oui.
du
oui,
stade.
Oui, mais enfin, ça veut rien dire, ça, parce que si vous prenez le règlement de la Ligue, il n'y a pas de territorialité dans les incidents. Un club est responsable de ses supporters, n'importe où, que ce soit dehors, que ce soit dedans. Et ça, ils ont oublié ça. Il ne faut pas oublier que le directeur football de l'Olympique lyonnais a été membre du service juridique de la LFP. Je l'ai connu puisque j'y ai travaillé.
Mmh. On le rappelle, hein, notre ami Guy Mislan est donc ex-directeur de la communication à la Ligue nationale voilà. de football.
Et monsieur, comment il s'appelle déjà, Vincent Ponceau, était membre du service juridique de la LFP pendant plusieurs années avant de partir à Lyon comme directeur administratif. Donc il connaît les règlements. Il connaît les règlements. Bon, et moi je trouve que cette absence de décision sur un fait aussi grave qui s'est passé à Marseille, eh ben ça donne ce qui arrive derrière ouais. à Montpellier. Et ça va se dérouler ailleurs.
Sachant qu'on a encore les JO qui arrivent. Et oui, pas mal
ils ont été escortés en plus, hein, jusqu'à l'aéroport.
C'est quand même arrivé c'est peut-être de mémoire la 20e, la 30e fois dans l'histoire depuis 10 ans ou 15 ans de la Ligue 1 que les bus de supporters se font caillasser. Combien de fois c'est arrivé? Lyon, par exemple, a dû être, je crois, tout le temps caillassé quasiment quand j'aurais été à Marseille. Là, c'est parce qu'il y a eu un blessé. Alors, c'est très délicat. C'est vrai que mon avis, hein, c'est que tu n'as pas tort quand tu dis ça. Mais ça reste très, très délicat. Déjà, moi, j'étais persuadé. Alors après, les règlements, on peut leur faire dire un peu tout ce qu'on veut. Qu'il y avait quand même un secteur au bout d'à peu près 100-200 mètres autour du stade qui était considéré comme étant sous la responsabilité du stade, mais que ça ne l'est pas quand c'est à 500 mètres ou à 800 mètres. Ensuite, est-ce que ces gens-là qui ne sont pas encartés, qui ne font pas partie d'une association de supporters, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont des supporters de l'Olympique de Marseille? Parce que dans ce cas-là, moi, par exemple, quand je reçois Paris, c'est différent, mais quand tu vas te déplacer à Marseille, tu t'envoies, je sais pas, les supporters ultra-parisiens, ils font un commando, ils vont caillasser le bus du PSG, et puis après, il y a match à jouer de l'OM à huis clos, sans leurs supporters.
On a bien compris, mon cher Stéphane, le fond de ta pensée, hein, effectivement. Ça reste très délicat à porter comme jugement dans ce type de situation. Oui, rapidement, Stéphane, il faut qu'on évolue.
Et Montpellier, c'est quand même le même club dont les supporters ont balancé quand même un pétard dans la surface de réparation de Clermont à la 92e minute, alors que leur équipe menait 4-2, avait donc match gagné, et qui se retrouve à devoir rejouer le match. C'était les mêmes, quoi.
Merci Stéphane Desenclos pour tes précisions. La Ligue 1, on y reste, hein, justement, dans le sommaire, vous l'avez entendu, on va évoquer nos deux Olympiques qui ne vont pas du tout bien, Lyon, Marseille, Marseille-Lyon, il n'y a rien qui va au niveau donc, de nos deux Olympiques. C'est beaucoup de matchs pour beaucoup de défaites, hein, ils ont changé tous les deux d'entraîneur. Grosso est arrivé, depuis qu'il est arrivé, c'est 4 défaites en 7 matchs, pardon, 2 nuls et 1 victoire. Gattuso, c'est 6 matchs, c'est 5 points seulement de gagner en championnat, soit une seule victoire en Ligue 1 face au Havre, 3-0. C'est le pire bilan justement d'un entraîneur marseillais depuis 2002. C'était Albert Aymon à ce moment-là. Les amis, hein, la question, elle est directe, elle est franche. Hein. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui les mauvais résultats de nos deux Olympiques, Abou? On commence par toi.
Bah, je pense que pour les deux clubs, il y a un manque de stabilité. Hein. À Lyon, il y a ce changement de propriétaire, changement de coach en début de saison. Il y a ces joueurs qu'on fait revenir, hein, les joueurs du cru lyonnais qu'on fait revenir et qu'on pense, là où on pense faire une bonne affaire, finalement, on se rend compte que non. Donc à Lyon, il y a un manque de stabilité. À Marseille, c'est encore plus effarant que Lyon, le manque de stabilité. C'est une dizaine de joueurs qui changent de club tous les étés. C'est des entraîneurs qui ne restent pas parce que c'est des supporters qui ne supportent pas de laisser les coachs travailler. C'est une direction qui achète des joueurs qui ne sont pas adaptés au style de l'entraîneur qui vient justement parce que le premier a été viré. À Marseille, le problème, c'est également la qualité des joueurs, quoi. Et la même chose à Lyon, finalement. On se retrouve avec un problème de stabilité qui découle sur un problème de qualité de joueurs. Je suis désolé, à l'OM, quand tu remplaces Arkadiusz Milik, un joueur qui a joué avec Lewandowski, qui a joué dans dans des plus grands championnats d'Europe, et que tu remplaces par un joueur de Division 2 anglaise, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour Eleman Ndiaye, il fait pas le poids. Quand tu remplaces Dimitri Payet, un joueur qui a joué une finale d'Euro, par un joueur comme Ismaïla Sarr, je suis désolé, pareil, tu te retrouves à te faire mal. Et pareil du côté de Lyon, où les joueurs qui sont partis sont beaucoup plus forts que ceux qui sont arrivés au club depuis maintenant une et deux saisons.
Mon cher Guy, Abou est en train de nous dire que Lyon, Marseille sont des clubs mal gérés, tout simplement.
Déjà, ce sont des clubs mal gérés. Bon, il se passe un truc, c'est que dans ces clubs, quand vous avez un capitaine d'industrie qui tient la baraque, comme Jean-Michel Aulas à Lyon, ou Jean-Louis Triot à Bordeaux, par exemple, parce que Bordeaux aussi, dans une situation qui n'est pas brillante, quand ces gens-là, qui ont un charisme, qui ont la gestion d'un club depuis déjà pas mal de temps, passent le relais à un inconnu, on en arrive à une instabilité. Normal. Bon, en ce qui concerne Marseille, il y a un problème de recrutement. Il a été raté. Bon, il y a un problème d'entraîneur. Gattuso est bien gentil, mais il n'a pas le charisme, ni le sens tactique.
Le charisme, il a quand même. Le sens tactique, peut-être pas.
Peut-être pas. Le charisme, il a peut-être. Ça a été un joueur qui était un aboyeur. Ça n'a pas été un grand technicien non plus. Bon, bref. Mais c'est pas de sa faute qu'il se trouve avec une équipe qui ne met pas un pied devant l'autre. Bon. En ce qui concerne Lyon, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'à Lyon, il y a quand même un effectif.
À Lyon ?
Un effectif avec beaucoup de clubs en Europe aimeraient avoir le même effectif que Lyon. C'est tout à fait anormal.
Je suis pas d'accord avec toi, Guy.
Ah, si.
L'effectif lyonnais, assez pauvre.
Oh, il est pauvre. Comment il est pauvre ?
Il n'y a qu'à regarder le jeu, pas plus tard qu'hier. C'est un effectif avec des joueurs de Ligue 2. C'est un niveau Ligue 2, hein, non, Lyon. Hein.
Je ne dis pas
Lyon, Lyon c'est troisième de la Ligue 2 actuellement.
Mais je ne dis pas le contraire. Mais c'est quand même
pourquoi troisième ?
C'est quand même avec des bons joueurs.
Pourquoi pas troisième ?
Qui ne jouent plus. Des bons joueurs qui ne jouent plus. C'est pas normal.
La Cazette, Cherki. Ouais.
Cherki n'est jamais au top niveau à Lyon. Alors qu'il est bon avec les espoirs. Bon, la Cazette qui a joué à Arsenal, où il a marqué un paquet de buts, il ne met pas un pied devant l'autre. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de bons joueurs. Il ne joue pas. Le problème, il est là. Et une impuissance dans cette équipe qui est catastrophique, quoi, c'est tout.
Salé, ton avis, est-ce que tu es d'accord avec Guy, justement ?
Je suis d'accord avec
sur les effectifs, notamment l'effectif lyonnais. Tu penses sincèrement que l'effectif lyonnais est de qualité ?
Comme ça reste la qualité sur le papier. Après, ils n'ont pas démontré.
Voilà,
après,
c'est ça.
Je regardais le match, moi, leur dernier match contre Lille.
Contre Lille, hier, ouais.
Ils perdent
1-0.
2-0. Bah, quand tu regardes le match, t'as pas l'impression que l'Olympique Lyonnais est vraiment dernier. C'est pas non plus dégueulasse.
Mais franchement, je vous trouve gentil, les amis.
Non, mais sérieusement, je vous trouve très gentil. Non, l'effectif, sur le papier, Après, ce qu'il démontre, c'est pas au niveau. C'est pas du tout au niveau. Ah, de toute façon, la dernière émission, quand j'étais là, on le disait, l'Olympique Lyonnais, ça va jouer, je pense, franchement. Limite, je pense que ça va descendre, c'est ça continue comme ça.
Statistiquement,
sur le papier, quand t'as des Lacazette, t'as des Tolisso, je parle encore sur le papier. Parce que là, tu dis que Lacazette, il est pas bon, mais la saison dernière, il fait une grosse saison. Là, cette année, c'est vrai que
L'entraîneur l'a dit hein, en conférence, hein, d'après ce qu'il dit, c'est lui qui le voit à l'entraînement. Pour lui, Lacazette, aujourd'hui, ne peut pas aller au-delà de l'heure de jeu.
Ils peuvent pas. Même
c'est ce qu'il dit, dans tous les cas.
De toute façon, Laurent Blanc, depuis le début de saison, il a alerté sur le fait que Lyon, ça va pas. Je pense qu'on n'a pas assez. On n'a pas pris au sérieux ses paroles. Mais ça, franchement, l'Olympique Lyonnais, ça fait peur. Et c'est triste de voir l'Olympique Lyonnais comme ça.
Et là, quel est ton sentiment justement face à la méforme de nos deux Olympiques ?
Bon, je vais commencer par l'Olympique de Marseille. Voilà, franchement, comme je le dis depuis un certain moment, ça me déçoit. Hein. Le jeu me déçoit énormément. Il n'y a rien, c'est très pauvre. En première mi-temps, ça allait moyennement. Deuxième mi-temps, on n'a pas compris, mais c'était une catastrophe. Franchement, ils ont réussi à tenir le match nul parce que c'est vraiment eux qui ont arraché le match nul face à Strasbourg et pas le contraire. Mais franchement, si ça continue comme ça, Marseille... Bon, déjà, je pense que Marseille, pour l'Europe, c'est cuit. Hein. Voilà, je pense que voilà. Maintenant, il faut qu'ils se le disent clairement et qu'ils l'acceptent parce que je sais qu'ils ont toujours des ambitions plus qu'en temps normal. Mais là, cette fois-ci, vous devrez jouer le maintien comme l'autre Olympique Lyonnais. Et j'y viens. L'Olympique Lyonnais, bah, moi, comme je l'ai dit depuis le début, hein, pour moi, ça ne descend pas. Ça ne descend pas, ça va se maintenir. Maintenant, franchement, j'ai regardé le match. C'était pas dégueulasse. C'était pas dégueulasse.
Face à Lille ?
Oui, face à Lille. C'était pas dégueulasse du tout. Je pense que Grosso, avec ses choix à chaque fois et ses tactiques, etc.,
L'équipe de Grosso change tous les week-ends.
C'est exactement ça.
Il n'y a aucune stabilité. Est-ce qu'on maintient un club en Ligue 1 quand on n'a pas de stabilité ?
Ah non, c'est très difficile. Mais moi, je l'ai dit depuis le début. Hein. Quand Grosso va partir, c'est là qu'ils vont enchaîner peut-être 2-3 victoires qui vont faire qu'ils ne vont pas être relégués en
Ligue 2. Donc pour toi, le problème, c'est Grosso. C'est pas Grosso. L'effectif qui est pauvre.
J'ai regardé le match. Le match, encore, ça allait. À un moment, ça allait bien. Ça allait moyen. Et franchement, au niveau où vraiment c'est devenu catastrophique côté Lyon, parce qu'ils ont eu des occasions en or. Baldé, il a deux occasions vraiment franches. Devant le but, il marque pas. Kadewere, il a deux occasions franches, vraiment. Là, je vous parle vraiment devant le but.
D'où la question de savoir si l'effectif est vraiment de qualité.
Non, l'effectif il est de qualité, mais ils sont pas concentrés. Moi, je pense que c'est pas le bon coach.
Donc, ils sont pas bons.
Non, pour moi, ils sont bons. Pour moi, ils ont un niveau Ligue 1. Pour moi, ils ont un niveau Ligue 1.
D'accord avec toi.
Voilà, ils ont un niveau Ligue 1. J'ai pas dit ils finissent dans le top 5 ou quoi, mais ils ont un niveau Ligue 1. Bah et pour moi, dans ce niveau Ligue 1, excuse-moi, mais le coach. Il joue un rôle très important. Et là, il joue pas son rôle. Quand il fait sortir Kadewere, qui apporte de la profondeur, malgré qu'il loupe énormément, il a apporté cette profondeur. Il le fait sortir pour le remplacer par Lovren. Mais jusqu'à, je soupçonne que Lovren, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il a quelque chose sur Fabio Grosso, qu'il le fait jouer là, ces deux derniers matchs. Or que Lovren, je sais même pas ce qu'il fait sur le terrain. Il est vraiment catastrophique. Et là, ça s'est vu encore. Ils ont tout perdu en faisant rentrer Lovren et en sortant Kadewere. Et là, il avait donné le match à Lille.
Stéphane Desenclos, comment expliquer que malgré tout, l'OM arrive à faire de bons résultats en Ligue Europa ?
Bah, on va rendez-vous jeudi, hein, mon avis. À mon avis, jeudi, ça va faire mal, ça va piquer.
C'est un souhait ou parce que là, je parle des matchs passés là.
Oui, oui. Bah, un nul à l'arraché contre Brighton, quoi. Il y avait 2-0, mais ça a duré un quart d'heure de plus, ils perdaient le match. Et après, c'est la Haye qui gagne au play. Mais ce qui est incroyable, pour revenir à ce que vous disiez, bon, déjà, le vrai énoncé là, de ton...
Stéphane, tu n'as pas répondu à la question.
Comment ?
Tu n'as pas répondu à la question. Comment tu expliques le fait que, malgré tout, l'OM arrive à faire de bons résultats en Ligue Europa ? Après, le match de jeudi prochain, il n'est pas encore là. Pour l'instant.
J'ai répondu que pour moi, ce n'est pas des bons résultats en Ligue Europa. Battre deux fois le Katen et faire 2-2 contre Brighton.
Abou, tu me confirmes, l'OM est premier de sa poule en Ligue Europa.
C'est ça, et des matchs que Stéphane voyait. Des matchs que. Stéphane, tu voyais l'OM perdre ses matchs.
On va voir, l'Ajax va mieux. On va voir ce que ça va donner.
Stéphane, mais c'est une bonne chose pour l'OM, ça veut dire que l'OM va se qualifier.
Comme disait Lange, par exemple, c'est vrai que aussi, il faut être clair, quoi. Le Lyon qui joue la deuxième, même le match d'hier, mais contre Lille, est bien meilleur, que le Marseille qui va perdre de la deuxième mi-temps à Strasbourg, quoi. Donc c'est vrai que ça fait, c'est bien de casser du sucre sur le dos de l'OL, mais effectivement on a l'impression qu'on a un entraîneur qui est complètement perdu, quoi, qui a pas d'objectif, quoi, d'idée précise, de plan de jeu. C'est un coup Akadewere, il ressort comme ça, il arrive. O'Brien, faut peut-être aussi arrêter, quoi, avec lui, quoi. Effectivement, c'est un grand, il va vite, il met des coups, il a mis un but important, mais bon, je veux dire, en dehors de ça, je sais pas ce qu'il apporte. Qu'il apporte à l'équipe, le petit Koumbédi, c'est pareil, c'est tout feu doux. C'est juste peut-être des choix. Il y a peut-être d'autres joueurs dans son effectif. Mais effectivement, grosso, je pense que c'est un gros problème d'entraîneur. Mais je pense que pour l'OM, on n'est quand même pas très loin non plus d'un gros problème d'entraîneur. Parce que par rapport à tout ce que vous venez de dire, j'ai regardé un petit peu les équipes qu'on fait. Metz, c'est 8 points sur les 6 derniers matchs. Sur 7 matchs, on va dire, donc un de plus, que l'OM. Toulouse, c'est 6 points. Clermont, c'est 8 points de prix aussi. Le HAC, c'est 7 points. Ne me dites pas que le HAC, Clermont, Toulouse et Metz, j'ai pris que ces exemples-là, hein, je pourrais prendre d'autres, ils ont des effectifs bien meilleurs que celui de l'Olympique de Marseille. Donc, cette équipe, c'est possible quand même, je pense que c'est quand même possible d'arriver à la faire jouer. Moins mal que ce qu'elle fait. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Aucun des deux entraîneurs. Je pense que c'est deux énormes problèmes de casting, erreurs de casting les deux. Merci. En pire peut-être pour Gattuso, mais même Gattuso, c'est pareil.
Mm-hmm. Selon toi, mon cher Philippe, est-ce que tu penses franchement que l'OM et même Lyon peut faire mieux que ce qu'ils nous montrent déjà?
De toute façon, on en a parlé au début de nos émissions. Lyon, il n'y a pas de projet sportif. Donc, de toute façon, tout part de là. Hein. Donc, il y a peut-être des bons joueurs, mais ils ne sont pas dans un bon environnement. Donc, de toute façon, on en avait parlé avec Guy tout à l'heure, on n'est pas très optimiste. Hein. Quant à Marseille, moi, je me pose quand même la question. Il y a des gens qui sont utilisés comme bénévoles. Que font-ils? Jean-Pierre Papin, par exemple. Jean-Pierre Papin, il est quand même dans l'entourage des clubs. On l'a pris pour qu'il donne des conseils. Est-ce que ses choix sont écoutés? Est-ce que d'autres...
Est-ce que c'est pas juste pour la photo aussi?
C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, ça peut être ça. Voilà, alors il y a eu des mauvais recrutements, il y a eu des mauvais choix, mais est-ce que ces gens-là sont écoutés?
Oui, Guy,
c'est un peu le problème.
Réaction là-dessus?
Moi, je pense que tout est parti du départ de Igor Tudor. Parce que quand un entraîneur comme lui... qui a quand même été dans des clubs italiens, qui a redressé la barre de l'OM l'an dernier au point de les amener à la Coupe d'Europe, ok, Tudor qui s'en va alors qu'il avait un boulevard devant lui pour faire de l'OM un club avec un recrutement qu'il aurait aimé avoir. Lui, il ne l'a pas eu. On ne lui a pas laissé de promesse. Donc il est parti. Et ça a été pour moi la fracture avec l'OM de l'an dernier, le départ de Tudor. Bon, derrière, ils ont changé d'entraîneur. Marcelino, c'est fantomatique. Gattuso.
Marcelino a redressé Villarreal, là, déjà.
Hein, oui, peut-être, dit. Mais peut-être à Villarreal.
On attend la suite, mais pour Marseille, ça va mieux à Villarreal.
Oui, mais Villarreal, c'est Villarreal. Marseille, c'est très spécial. C'est un club très spécial. Bon, moi, ce que je pense, c'est que le recrutement fait par Longoria a été une catastrophe. Bon, Vous pouvez mettre n'importe quel entraîneur. Si vous avez des tonneaux sur le terrain qui ne veulent pas rouler, ça ne marchera pas.
Donc pour toi, Guy, c'est les joueurs. Ibrahima, est-ce que selon toi, grosso, Gattuso, ça finit la saison?
Concernant Gattuso, je pense que oui, la saison, il va la terminer. Malgré tout, on sent qu'il a un peu plus d'emprise sur l'équipe que Fabio Grosso, où on sent que là, il est totalement perdu. Hein. On sent qu'il n'y a aucune emprise, il change de joueur à chaque match, il est perdu, tout comme ses joueurs d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'à l'Olympique de Lyonnais, ils sont tous abattus. Même hier, ils étaient menés 2-0. Il n'y a aucun caractère, ils ont du mal à revenir dans le match, ils ont des occasions où ils tirent sans réellement y croire. Après, non, je pense que les Gattuso, je le vois bien terminer la saison malgré tout. Je pense, même si je ne vois pas, je suis franchement déçu de l'Orient, parce qu'il y a malgré tout un bon effectif. Enfin, sur le papier, les joueurs sont plutôt bons. Il y a des joueurs comme Amin Harit, même s'il revient de blessure, qui est un bon joueur. Aubameyang, même si à Chelsea, déjà, on sentait qu'il était sur la pente descendante, le remplacer par Aubameyang, ce n'était pas forcément la meilleure décision, mais ça reste quand même un bon joueur de foot. Ismaïla Sarr, c'est pas bon. Illeman Diaye, pareil. Mais je pense quand même, je vois quand même Gattuso terminer la saison. Mais sinon, pour
Grosso, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu regardes Star et Liman et tout ça, c'est des joueurs de Ligue 2. Hein,
Marseille et Lyon ont beaucoup de joueurs de niveau Ligue 2, surtout Lyon.
Est-ce que finalement ceci n'explique pas cela à bout?
Non, du tout. Là, franchement, excuse-moi d'interrompre, mais franchement, non, on ne peut pas comparer la Championship à la Ligue 2. Franchement, franchement.
À la Ligue 1, je veux dire.
Oui, à la Ligue 1, mais comme tu as dit, c'est
La preuve, regarde les rendements de ces deux joueurs cités. Oui, si on veut s'arrêter sur cela.
Franchement, Illiman Diaye à Sheffield United, c'était un autre homme. C'était vraiment un autre homme. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'il a fait la saison dernière, avec autant de buts marqués, comment il a été décisif en autant de matchs.
Il est mal utilisé.
Pour moi, clairement, il est mal
utilisé. C'est quoi la différence de son utilisation à Sheffield et aujourd'hui à Marseille?
À Sheffield, il portait un peu l'équipe, entre guillemets. En tout cas, il y avait des hommes forts, il y avait un collectif, mais il portait l'équipe. Les gens comptaient sur lui. Là, à Marseille, personne ne compte sur lui. On dit, fais une passe décisive, c'est bien. Et on ne veut pas que tu en fasses plus. Il n'a pas de liberté. On n'a jamais tenté de le mettre en pointe. On n'a jamais tenté de le mettre en faux neuf. Ça, on n'a jamais rien tenté avec lui. On le met à un poste, il joue. Le match d'après, on le change et tu joues. C'est ce qu'on lui demande. Et il est mal entouré.
Oui, Ibrahima, réaction?
Il y a aussi, enfin, je voulais souligner aussi le recrutement d'un joueur comme Correa. Sincèrement, c'est catastrophique. Enfin, je sais pas comment il a atterri à Marseille. Il va falloir nous expliquer tôt ou tard, mais
c'est très grave. C'est vrai qu'au niveau de l'Olympique de Marseille, je vais interroger mon ami Stéphane Desenclos, le quotidien du sport. Stéphane, il y a quand même pas mal de recrues qui laissent quand même perplexe.
Oui, tout à fait, mais ce qui est hallucinant, moi je vais vous dire juste une réflexion en tout cas qui est la mienne. Ce qui est hallucinant quand vous regardez à peu près ce qui se dit un peu partout, hein, que ce soit sur les radios et tout, celui qui en prend plein la tronche, des panneaux, casse-toi, McCourt, casse-toi, c'est Franck McCourt. Franck McCourt, depuis qu'il a racheté l'OM, je ne vais pas le défendre excessivement, il a mis 200 millions dans le club, il y a des gens derrière qui ont fait n'importe quoi. Alors, Héros, j'en parle pas. Mais alors, Longoria, c'est limite encore pire que Héros. Ils font n'importe quoi. Et puis, les supporters, l'environnement, les observateurs.
Mais tu mets quoi dans le n'importe quoi?
Bah, n'importe quoi, bah, je réponds un peu à ta question. Dans le recrutement, par exemple, qui est n'importe quoi. Mais ce qui est plus honteux, c'est que c'est un recrutement qui fait plaisir. Qui fait plaisir aux gens, quoi. Je veux dire, il faut voir comment les supporters ils kiffaient, ils étaient contents, les supporters de l'OM, quand tu leur as mis du Aubameyang, de Ndiaye, du Sarr, ils étaient fous qu'ils arrivent à faire signer Ismaïla Sarr, ou comment ils portent un mec comme Amin Harit, par exemple, au nu, comme s'il était le meilleur joueur du monde. C'est incroyable, et j'ai l'impression que Longoria, par exemple, se joue un peu de ça. Il a fait honteux, c'est le recrutement de Marcelino, avec faire tout le recrutement de l'équipe avec lui et tout ça, parce que c'était son ami. Ça, c'est quelque chose de honteux. Donc, je trouve ça incroyable. En fait, la seule personne, je pense, qui n'est pas à blâmer dans l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est Franck McCourt. Il a mis le pognon, il a rien fait. Il a jamais dit à un moment donné, comme le dit Textor, par exemple, à Lyon, il engage Prud'homme, là, qui va arriver, directeur du football. Mais de toute façon, il faut bien savoir que c'est moi qui prendrai toutes les décisions au final. Donc, il veut toujours faire lui aussi n'importe quoi, mais au moins, c'est dit que c'est lui qui fait. McCourt, il fait rien. Il a mis le pognon.
Merci, Stéphane. Guy, est-ce que...
Juste un mot pour dire que dans ces deux grands clubs, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, il y a un gros problème, c'est au niveau des supporters. Les supporters jouent un peu les patrons du club, dans les deux clubs.
Mais parce qu'on leur a donné
ils
la place.
Ils mettent une pression, oui, c'est vrai. Dans les deux clubs, ils mettent une pression pas possible sur la direction du club, sur le staff, sur le recrutement. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Le jour où les supporters resteront à leur place, peut-être que ça ira mieux.
Merci Guy pour cette, cet avis, en tout cas très intéressant. Pour la suite justement de notre sommaire, on va continuer de dérouler les amis. On va parler cette fois-ci du Stade Rennais. Il y a Julien Stéphane qui est revenu sur le banc du Stade Rennais. Il a commencé par une victoire d'ailleurs. Hein. Mais au-delà de cette victoire, justement, on se pose la question, est-ce que finalement il y a un manque d'entraîneurs de façon mondiale, hein? On va en parler, mais on voit que le Brésil, par exemple, n'a pas véritablement de sélectionneur. Julien Stéphane qui revient, est-ce que c'est vraiment un premier choix? C'est un choix par défaut? On se pose vraiment la question. Qu'est-ce que vous en pensez, Eladj?
Franchement, moi je pense que c'est en vue des performances de Guy Stéphane avant ce qu'il faisait... avec d'autres clubs, etc.
Parce qu'il s'est fait virer de Strasbourg. Hein.
Oui, oui. Mmh. Mais il faisait quand même, en tout cas dans l'attitude, dans le jeu, etc., c'était déjà mieux. Et comme on dit, hein, des fois avec l'effectif, quand tu veux jouer dans un certain système et tu n'as pas les joueurs pour, ton système, il floppe. Et je pense que c'était ça. Et là, il arrive à Rennes. Bon, après maintenant, c'est dur de s'avancer sur un match, mais on va attendre encore. Mais on a vu du mieux déjà depuis le début de saison. On n'avait pas vu une équipe de Rennes comme ça.
Ah pour toi, déjà, il y a eu un déclic, il y a eu un changement.
Ah oui, pour moi, il y a eu un changement, clair. Mm-hmm. Oui.
Salé. Manque d'imagination au niveau des clubs, des dirigeants.
C'est pas un manque d'imagination, c'est juste que là, sur le papier, on n'a pas.
Ça fait pas réchauffer ?
On n'a pas grand monde. Tous les grands coachs sont, on va dire, calés dans leur club. Je veux dire, quelles sont les autres propositions ? Il n'y en a pas d'autres. Et Guy Stéphane, après, c'est pas comme s'il revenait. Il revenait à la maison, il revient dans un club qu'il connaît, qu'il a déjà entraîné. Avant Strasbourg, il était là-bas. Donc ça se passait pas trop mal, juste sur la fin, ça c'est un peu mieux.
Non mais au-delà du cas Guy Stéphane, hein, là je
Julien,
pose la question à vous.
Vous confondez le fils et le père depuis tout à l'heure.
Autant pour moi, au-delà justement...
Mais on avait rectifié. Hein.
au-delà justement du cas du nouvel entraîneur Rennais, regarde, hein, Lyon, ils sont en galère, ils vont chercher Grosso. Marseille, je pense qu'ils vont chercher Gattuso, mais sans être véritablement convaincu. Je peux t'en citer pas mal comme ça. Marcelino aussi à Marseille en début de saison. Est-ce que finalement, il manque de grands entraîneurs sur la place ou tout simplement, on bosse pas beaucoup, Guy ?
C'est possible, c'est possible. C'est vrai qu'il y a les trois quarts des entraîneurs de la Ligue 1 sont des entraîneurs étrangers. Alors peut-être que c'est une nouvelle mode qui a déjà eu lieu, attention. De dire qu'il n'y a pas d'entraîneur français, je ne pense pas. Il y en a, mais peut-être que ou ils se sont mis en réserve, ou ils ont un petit peu lâché les rênes, se sont moins intéressés à leur métier. Alors peut-être qu'il y a moins de matériel humain pour remplacer les entraîneurs qui partent. Mais d'un autre côté...
Certains dirigeants font cas du fait que les entraîneurs français ont tendance à cajoler, à câliner un peu trop les joueurs français, justement, dans les clubs.
Oui, ça, c'est vrai. Enfin, pas pour tous, mais enfin, il y en a beaucoup qui acceptent ce genre de situation. Mais les étrangers, on les prend parce qu'on s'imagine qu'ils vont nous faire gagner la Coupe d'Europe. Ou qui vont au moins...
Apporter une discipline, révolutionner quelque chose dans le jeu, j'imagine.
Oui, mais c'est pas toujours le cas.
Brahima, ton avis là-dessus ?
Oui, tu disais tout à l'heure qu'on reprochait aux entraîneurs français de forcément trop câliner les joueurs, etc. Mais je rappelle que quand c'est du côté allemand que ça se fait, là, bizarrement, tout le monde est content et on félicite...
T'as des exemples ?
Quand Jürgen Klopp se met à checker ses joueurs à la fin des matchs, leur faire des câlins, parler,
sauf que eux, ils
tout le monde est content. Quand Thomas Tuchel était venu au Paris Saint-Germain et qu'il faisait la même chose, on avait dit que c'était la révolution par rapport à Unai Emery ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, à un moment donné, il va falloir choisir ce qu'on veut. Mais je pense que surtout, ce que le football français a besoin, c'est des trophées, hein, et surtout des trophées au niveau européen, quel que soit l'entraîneur, la nationalité ou... Peu importe, là, le football français a énormément besoin de trophées au niveau européen, je pense.
Ah bon?
Ah, mais il y a un manque d'imagination clair, net et précis.
Ah, pour toi, c'est un manque d'imagination, ça ne bosse pas beaucoup.
Ça, oui, ça ne réfléchit pas trop. À Rennes, c'est le problème, ce n'est pas la qualité de l'entraîneur. Hein. Julien Stéphan, il va faire énormément de bien à Rennes. Il a gagné une Coupe de France avec eux. À Strasbourg, ça se passait plutôt bien, mais il y a un manque d'imagination clair, net et précis. Quand à Marseille, on te propose De Zerbi et que tu réponds que De Zerbi, tu n'es pas sûr qu'il soit adapté au style de l'OM, mais c'est n'importe quoi. Tu es parti dans un truc où tu étais loin ce jour-là. Tu avais passé peut-être la soirée au casino à jouer avec Marcelino aux cartes. Peut-être que Longoria était dans un délire comme ça à cette époque-là, mais c'est un truc de fou. Quand tu ramènes et quand tu oses faire preuve d'imagination et tu ramènes un entraîneur comme Tudor, ça coince avec les supporters qui sont pas contents d'avoir quelqu'un qui crie et qui casse tout sur son passage. À Lyon, c'est pareil. Là, il y a Fabio Grosso, il va bientôt être viré sûrement. Ils mettront Antonetti. Et à Brest, s'il y a jamais une galère, ils appelleront Pascal Dupraz, ils lui diront de venir. Et après, si jamais ça va vraiment pas bien à Montpellier, ils appelleront Roland Courbis. Les gars, ne travaillent pas. Les gars ne travaillent pas.
Là, tu ressors les noms. Là.
Comboiré. Mais il y a Comboiré, Nantes aussi, Comboiré. Si ça se passe mal. Ah, il reviendra avec Vaïd. Soit lui, soit Vaïd. Ils feront un peu la guéguerre avec, comment il s'appelle, Valdemar Quitta. Mais on les prendra pour 6 mois pour faire les pompiers. C'est...
Mais au niveau de Lyon, visiblement, il y a le nom de l'ancien entraîneur de Marseille qui est régulièrement cité, hein, qui est dans les petits papiers. Celui qui a précédé Tudor,
Sampaoli.
Sampaoli, qui est régulièrement cité. Hein,
bah voilà, manque d'imagination.
Mon cher Stéphane Desenclos, je ne sais pas si tu as eu vent de cette information au niveau du quotidien du sport.
Oui, j'en ai entendu un peu parler, mais j'avoue que moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que je ne pensais pas. De toute façon, Textor, il fait le contraire de ce qu'il faut faire. Donc, s'il fallait le prendre, il ne va pas le prendre. Et s'il ne faut pas le prendre, il va le prendre. J'avoue que j'en ai plus, quoi. Parce qu'on a beau dire, mais des entraîneurs français, il y en a. Il y a par exemple un entraîneur comme Didier Digard, par exemple, quoi, qui a montré de très très belles choses.
Mais pourquoi il s'est fait virer justement de Nice ?
Eh bien, il n'a pas été gardé parce qu'à la fin, rappelez-vous, je crois qu'il a eu quelques mauvais résultats sur la fin, après avoir très très bien démarré. Bon, Nice, ça m'a l'air d'être.
C'était pas plutôt extra-sportif ?
Ouais, c'est plus interne.
Je pense que c'était plutôt extra-sportif. Hein. Après, tu sais que le milieu, il est assez petit. Hein, donc, si l'info, la nouvelle en question fait un peu le tour, ceci explique un peu cela. Hein. Philippe, t'as pas.
C'est un très bon entraîneur. Mais Julien Stéphan, moi, je trouve pas que c'est un manque d'imagination. Parce que Julien Stéphan, il faisait quand même partie il y a ses débuts à Lens, pendant un Lens à Rennes, la première saison, ou même encore après, avant qu'il parte. Il faisait partie un peu de la nouvelle vague, de ses entraîneurs surdoués, qu'il fallait absolument mettre en avant.
Ouais, donc, belle gueule aussi, ça compte. Hein.
Moi, je pense que c'est une anomalie qu'il n'est pas d'entraîneur. Mais d'un autre côté, là, il a signé un contrat de 7 mois, je crois, ou de jusqu'à la fin du mois de juin, quoi. Alors, il va peut-être être renouvelé s'ils sont 5e. Genesio, qui est parti bon, par l'attitude et tout, c'est un très bon entraîneur. C'est un très bon entraîneur. Donc, il y a...
Et si Genesio était parti, justement, finalement, pour retrouver l'Olympique Lyonnais? On est en droit de se poser la question, les amis.
La façon, je crois.
Moi, je pense que c'est impossible.
Ah ouais. Impossible aussi pour toi? Bah oui, tel si.
Et on lui souhaite mieux que ça, quand même, Bruno.
Ça s'est très mal fini, quand même. Ouais.
C'est pas plus tard que la dernière fois, il disait on n'est pas à Lyon ici. Il l'a répété.
Ouais, mais tu sais, même quand il y a un couple, il y a de l'amour, mais ça se dispute parfois aussi, tu sais. Hein. Mon cher Philippe, réaction là-dessus.
Stéphane, il est revenu. Bon, il n'y a qu'un match, on verra la suite. Hein. Des fois, il y a des entraîneurs qui sont les entraîneurs d'une ou deux saison et puis après ça se passe moins bien, donc il faut attendre. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup maintenant de propriétaires de clubs qui sont des propriétaires étrangers, puis je pense qu'ils jouent simplement la facilité, quoi. Ils vont chercher des entraîneurs étrangers et non français.
Ouais, ça donc, travaille pas beaucoup. Hein.
Je pense vrai. Que voilà,
parce que moi, ils jouent la facilité de plus en plus. Il y a une année où je crois que c'était Pape Diouf, je crois de mémoire, qui était allé nous chercher. Le Belge...
Eric Guéret.
Mais quand on regarde, il y a eu pratiquement...
Il y a eu quand même de bons résultats avec le contenu aussi qui n'était pas mauvais. Hein.
À Reims, là, il y a Will Steele, mais pareil, par hasard...
Il fait du bon travail.
Ouais. Même à Nice.
C'est du par hasard, c'est pas un gars que tu vas chercher, c'est un gars qui est adjoint et que tu mets finalement...
Oui, mais à Nice, les propriétaires sont étrangers, c'est pareil.
En fait, il faut faire confiance à la nouvelle génération.
Il faut bosser un peu.
On a marre du recyclage.
Il faut bosser un peu. Les amis, juste après la pub, le sommaire, on va... justement retrouver la Ligue des Champions avec nos clubs engagés, Lens, le Paris Saint-Germain et puis aussi hein, l'Olympique de Marseille pour l'Europa League. Ce sera juste après la pub et le sommaire. Bougez pas, on revient.
Mais t'imagines toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, non, mais attends. Ouais, c'est ça, marre-toi. Non, mais attends, attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc...
Téléphoner en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident.
Au sommaire debout du foot de ce lundi 27 novembre, 30 secondes chrono. Quel est le fait majeur foot de nos chroniqueurs en 30 secondes? La réponse dans quelques instants. Ligue 1, plus rien ne va chez nos Olympiques. L'Olympique de Marseille en très grande difficulté. L'Olympique lyonnais n'y arrive toujours pas. Quelles conséquences pour notre championnat? Nice, meilleure défense d'Europe. Le Paris Saint-Germain qui domine Monaco. Au bout du foot, analyse les différents cas des clubs cités. Stade Rennais, le retour de Julien Stéphan sur le banc du désormais 10e de la Ligue 1. Est-ce le signe d'un manque d'imagination dans le choix des entraîneurs pour nos clubs français? Au bout du foot, se prononce. Coupes européennes, quelle semaine pour nos clubs en Ligue des Champions et en Europa League? Paris peut-il se qualifier dès ce mardi? Le RC Lens peut-il répéter son exploit contre Arsenal? La forme retrouvée de l'Ajax d'Amsterdam doit-elle inquiéter l'Olympique de Marseille? Au bout du foot, donne ses réponses. Quel choix pour quel résultat? Jonathan Clauss en pleine bourre en club comme en sélection. L'équipe de France a-t-elle enfin trouvé son latéral droit? La question est posée. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud. Situation très délicate pour le Brésil. 3 défaites consécutives, 6e des qualifications. Absence de Neymar et absence d'un vrai sélectionneur. Faut-il craindre une non-qualification de la Seleção pour la Coupe du Monde 2026? Au bout du foot, fait le point. Euro 2024 en Allemagne. Le point sur les équipes déjà qualifiées pour l'Euro. Qui sont les grands absents? Au bout du foot, commentaires, analyses, décryptage, pronostics. Bienvenue.
Retour plateau au bout du foot avec nos amis Stéphane Desenclos, journaliste, rédacteur en chef du quotidien du sport.fr, Eladj, chroniqueur foot chez Montpellier FM, Ibrahima, étudiant et amateur de foot, Philippe Carnu, journaliste et présentateur de Montpellier Sport sur Montpellier FM, notre red chef Aboubacar et puis nos invités Guy Misselin, journaliste à l'AFP, l'équipe France Football et ex-directeur de la communication à la Ligue Nationale de Football et puis un autre amateur de foot, hein, notre ami Salé, supporter aussi du PSG, on peut le dire, hein, n'est-ce pas Salé? On peut le dire, hein.
Ouais. On est fort.
Oui, fort, ben, il assume. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les amis, à présent, on va aborder la Ligue des Champions. On a nos représentants français, Paris Saint-Germain, Lens, qui seront donc demain sur la pelouse face à Newcastle et puis face également à Arsenal pour ce qui est du RC Lens. Quelles sont nos chances par rapport à ces deux matchs? Là, je pense que toutes nos deux équipes jouent, on va dire, la qualif. Guy.
Alors, on va commencer par le Paris Saint-Germain. Si le PSG joue comme il a joué contre Monaco, il n'y a pas photo. Hein. Je pense que Newcastle passera à la trappe. Et d'ailleurs, ce serait important parce que si le PSG gagne, celui-là, il va falloir sortir la règle à calcul. Si le PSG gagne, il a 9 points. Ça écarte déjà Newcastle, par exemple.
Oui.
C'est pour ça que je pense que tout autre résultat qu'une victoire, ce serait une catastrophe. Bon, je pense que le PSG va gagner. Bon, ce qu'il va faire, 9. Mais ce n'est pas parce que vous avez 9 points dans un groupe comme celui-ci que vous êtes qualifié. Dortmund en a 7.
Dortmund qui revient très très bien. Hein.
Qui revient
très
bien.
Fort. et en championnat et en Ligue des Champions.
Milan, on a 5. Ce qui veut dire qu'il y a un Milan-Dortmund. Si Milan bat Dortmund, il a 8.
Okay. Ouais, oui.
Dortmund, 7. PSG, 9. OK. Il passe en tête. Mais il y a un Dortmund-PSG derrière.
Ah, ça va voir là.
Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est pesant des cacahuètes.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Il y a un Milan, il y a un Newcastle-Milan aussi.
Et un Newcastle-Milan.
Mm-hmm. Donc, grosso modo, mon cher Guy.
Oui.
Optimiste ou pas ?
Optimiste.
Optimiste. Philippe ?
Oui, moi aussi, optimiste. Je pense que
on
Paris.
On reste sur le PSG pour
oui, l'instant. Je pense que Paris va gagner 3.
Ah, ben toi, tu vas direct dans le club.
Ah, clairement.
3 buts à 1 pour Paris Saint-Germain. Ouais. Pour ouais. Toi, d'accord. Ibrahima, ton sentiment ?
Optimiste.
On signale que le match se joue au Parc des Princes, c'est bien à la maison. Et qu'à l'aller, le PSG avait été défait 4 buts à 1.
Optimiste, bah, on va quand même rester tranquille. Hein. On avait observé une belle victoire de Newcastle ce week-end. Bon, certes, Chelsea a joué à 10 sur une partie du match, mais ça reste quand même une victoire 4-1. Ouais. Moi, sincèrement, le PSG ne me convainc toujours pas. Hein. Je trouve que ça reste quand même assez fébrile et ça encaisse surtout beaucoup de buts. Donc, sincèrement, on attend de voir ce qui va se passer demain. Je vois quand même le PSG s'en sortir malgré tout, parce qu'il y a quand même un enjeu assez conséquent sur ce match. Mais il va falloir rester méfiant. Et si je dois pronostiquer un score, je vois quand même un match nul. Et après, par contre, ça risque d'être très compliqué de se qualifier dans ce groupe où, sincèrement, on ne sait plus où donner de la tête.
Pour gagner.
Mmh. Oui. Mon cher Salé, en toute objectivité.
Non, je vais être réaliste quand même. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, demain, on va gagner. Le Paris Saint-Germain va s'imposer. Difficilement, je pense un peu peut-être. Mais bon, après là, s'ils font le même match qu'ils ont fait, comme Guy l'a dit, contre Monaco, ça devrait bien se passer. Et après, il ne faut pas oublier que les gens retiennent beaucoup le match de l'aller. À l'aller, c'était, on va dire, un peu une erreur tactique de la part de Lucho. Là, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Demain, ils savent ce qu'ils sont attendus. On est à domicile. Et franchement, il n'y a pas le droit à l'erreur. Ils le savent. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Hein,
Et là, optimiste aussi pour toi ?
Non, moi je suis pas très optimiste dans la victoire du moins. Je rejoins Ibrahim.
Mais ça m'étonne.
Comment ?
Ça m'étonne de toi.
Non, absolument pas. Mais je suis très objectif.
Qu'est-ce qui te fait peur ?
Comment ça va t'étonner ? T'entendais pas juste avant Stéphane qui nous disait que j'avais dit que PSG n'allait jamais battre Newcastle. J'ai jamais dit ça et je ne pense pas parce que ça serait très triste quand même. Et dans un match de foot, on voit bien que tout peut se passer en voyant Toulouse-Liverpool. Mais bref, franchement, là, Zaïre Emery, il est blessé. C'est un homme fort du moment, du milieu de terrain. Et ce qui n'avait pas marché le match aller, c'était le milieu de terrain aussi qui avait pris l'eau complet. Du coup, là, sans Zaïre Emery, qui est un homme fort en ce moment, même si Fabien Ruiz joue bien, mais il joue bien en ce moment, contre qui ? Il monte en garde, contre qui encore ? Voilà, moi, Guy, je voulais revenir aussi sur la victoire du PSG face à Monaco. Non, justement, moi, je pense que si le PSG joue comment ils ont joué contre Monaco, ils vont perdre le match contre Newcastle. Parce qu'en face, c'est pas Monaco, c'est Newcastle. Et Newcastle, on a vu, ça punit sèchement. Une action, c'est un but. Une action, c'est un but. On a encaissé quand même 2 buts contre Monaco. On en a mis 5 derrière, ok, mais on en a encaissé 2. Et franchement, il y avait la place pour que Monaco en mette encore 2 autres. Hein. Moi, je m'en souviens, il y avait 4-3 encore. Il y avait 4-2 encore. Monaco aurait pu mettre le 4-3 et les 10 dernières minutes les animer. Hein. Vraiment. C'est vraiment, ils ont tué le match sur l'efficacité. Maintenant, oui, il faudrait être efficace contre Newcastle. Mais moi, je verrais un match nul. Je pense qu'avec un match nul au Parc des Princes, ça serait pas spécialement un bon résultat. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas porter une importance grandiose à ce match-là. Il faut juste que le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale, premier ou deuxième,
mais
ça revient.
Il faut commencer par gagner déjà pour se
qualifier. C'est un groupe serré, hein.
Un match nul et ensuite tu vas gagner à Dortmund.
C'est un groupe serré, hein.
Ça revient bien Dortmund.
Dortmund, t'as battu Newcastle, hein.
C'est pas gagné.
Aller-retour.
De façon assez claire.
Oui, je dis pas le contraire, mais comme on sait, le
football. Attention, c'est un groupe très serré, hein.
Tu as battu Dortmund.
Mon cher Abou, on sait que quand le PSG est très pressé, elle a véritablement, ou du moins il a véritablement du mal à dérouler son jeu. Est-ce que tu penses que si d'aventure Newcastle demain arrivait à presser très haut d'entrée le Paris Saint-Germain, ça peut être une véritable difficulté pour le club de la capitale.
Ah, je pense que ça risque d'être très vite compliqué pour eux. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de Warren Zaïre-Emery. Parce que le petit, il a que 17 ans, mais sur ses sorties de balle, il est juste incroyable. Sur sa maîtrise de soi, sur le calme qui génère autour de lui. Enfin, tu sais que c'est un joueur sur lequel tu peux compter. Tu sais que si jamais au milieu, ça prend l'eau, tu sais que c'est le gars qui va toujours être là, tranquille, un peu la bouée de sauvetage. Donc moi, ça m'inquiète un peu à voir à quel niveau seront les joueurs du milieu de terrain. Ougarté, il faisait un très bon début de saison. Après, on a vu des matchs coup-ci, coup-ça. Demain, dans quel état d'esprit il sera. Après, on est quand même à la maison. Enfin, vous êtes au Parc des Princes, vous êtes chez vous, devant 70 000 spectateurs. Enfin, normalement, 46 000, pardon, je crois, le stade de Parc des Princes.
Non, le Parc des Princes, il ne va pas à 70
000. Je confonds avec... Ce n'est pas un si grand stade que ça. Mais c'est quand même un très joli stade. Bon, avec une très...
les supporters de l'OM, ils se font des passe-passe. Hein. Entre Malik et Abou, ils se font des passe-passe pour bien tacler.
C'est quand même un très beau stade. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir un match au Parc des Princes il n'y a pas très longtemps de ça, contre Montpellier d'ailleurs. Et c'est un très beau stade où il y a énormément de bruit. Et je pense que si c'est un jour où tu rentres dans le match et tu es offensif directement, le public sera derrière toi et c'est un match que tu dois forcément gagner.
Mm-hmm. Guy, réaction ?
Il ne faut pas oublier quand même que le PSG a battu Milan 3-0. C'est quand même un bon résultat.
Mais le même PSG s'est fait battre aussi.
Ah, oui, non, mais d'accord, mais attends.
Guy se souvient que d'un match.
au Parc des Princes, vous avez eu un 3-0 contre Milan, un 4-0 contre Barcelone.
À Saint-James Park aussi, il y a eu un 4-1 aussi. Ah,
oui,
hein, pour
oui mais bon.
Là, Guy, il nous parle de match, Barcelone et tout.
Non, mais Guy, c'est un optimiste. Est-ce que c'est le cas de notre ami Stéphane?
Ouais, moi je suis optimiste. Non, en foot, comme je dis, tout peut arriver, mais les cinq derniers matchs, les résultats des cinq derniers matchs du PSG au Parc, je les ai pas notés ou machin, mais je pense que c'est au moins 3 buts par match.
3 buts par match.
Victoire avec au moins 3 buts par match. Donc, moi, je suis pas du tout d'accord avec l'analyse, où pour moi, justement, comme l'a dit Ladj, le Paris Saint-Germain de demain, il va vivre grâce à son efficacité et l'apport de ses joueurs offensifs. Moi, franchement, le problème de Zaïre Emery, que je trouve qu'il est un super joueur surdoué, je veux dire, déjà, petite question à Abou, par exemple, est-ce qu'il, je ne me rappelle plus, il jouait à Newcastle ou pas, Zaïre Emery? Il jouait, je crois.
Oui, bien sûr.
Il jouait. Voilà, il claque. Donc, il ne peut pas changer le destin. Par contre, Dembélé ou Mbappé, il peut changer le destin. Il peut changer le destin il peut changer le destin d'un match. Donc moi, pour moi, il y a pas. Je l'avais dit dès le début. Bon, maintenant, je suis peut-être trop optimiste, mais là, lucide.
Trop supporter aussi, peut-être. Non
ah ouais. Moi, je viens d'entendre que Zaïre Emery, c'est pas si important que ça finalement au milieu.
Deuxième Milan, troisième Dortmund, quatrième Newcastle. Sur le résultat final de cette...
Il n'en démord pas, notre ami Stéphane. Guy, là-dessus, et après on enchaîne avec Lens.
Non, moi, ce que je pense, c'est que...
Oui, Guy.
Je reste là-dessus. Maintenant, c'est pas sûr que ça se passe. Hein.
Oui, Guy.
Un club...
J'aime bien ta petite réserve de la fin.
Un club comme le PSG ne peut pas baser son avenir sur un gamin de 17 ans. Il n'est pas là. Il va trouver le moyen de le remplacer. Ou alors, c'est très, très grave.
Mais il est doué.
Très grave. Mais il peut être doué. Quand Manchester City a perdu Kevin De Bruyne, il a continué à gagner. Hein,
pour le remplacer, c'était pas Fabien Ruiz et Carlos Soler.
C'est ça. Hein. Et franchement, ils ont enchaîné les défaites quand même.
Fabien Ruiz.
Si on vient à Manchester City, ils ont enchaîné les mauvaises performances.
Fabien Ruiz à Naples était un très, très bon joueur.
Mais depuis qu'il est au PSG, Guy, il est honnête d'admettre que c'est plus le même.
Pas tous ensemble. Pas tous ensemble.
C'est normal qu'il y ait quand même au moins un an d'adaptation pour un joueur quand il change de club. Je comprends pas qu'on
puisse... Grosso modo, hein, quand on fait le tour de la table avec Stéphane au téléphone, vous êtes à 90%, 80% tous optimistes quant à la victoire parisienne demain face à Newcastle.
Au Parc, oui.
On est bien d'accord, les amis. On va enchaîner tout de suite encore, toujours dans la Ligue des Champions, avec le RC Lens. Face à Arsenal, on se souvient qu'au match aller, le RC Lens avait réussi justement à se défaire du club de la capitale anglaise, les Gunners. Est-ce que vous pensez, chers amis, que le RC Lens est capable de rééditer son exploit à bout?
Pas du tout.
Ah, pas du tout pour toi.
Mais après, moi, les Lensois, ils devraient être contents. À chaque fois que j'annonce qu'ils perdent, ils gagnent. C'est un truc de ouf. Donc peut-être que
sauf
demain.
La dernière fois. Sauf la dernière fois, c'est exactement la même. Et le PSV, ouais, c'est vrai.
Je m'en souviens, t'avais balancé la même rengaine là.
Ils vont peut-être perdre alors. Mais non, moi, en plus là, Arsenal, franchement. Mais félicitations, nos amis Lensois, pour le parcours. C'était génial.
Leader quand même du championnat anglais, hein, Arsenal.
Bah oui, mais c'est pour ça que je les vois pas du tout réitérer le coup. Là, je pense que les hommes de Arteta, ils seront.
Mais cela dit, on n'a pas vu un Arsenal non plus des grands jours avant-hier. Hein.
Ouais, mais le Arsenal des moyens jours, c'est deux fois plus fort que Lens. Un Arsenal des grands jours, c'est pour leur mettre une manita. Donc.
Sauf que le Lens d'Arsenal au match aller, c'est pas le Lens de maintenant. Le Lens de maintenant, il remonte à la sixième place.
Et le Arsenal du match aller, ce sera pas le Arsenal de demain, Guy, je te le dis.
Parce que l'Arsenal, là, ils sont premiers aussi, hein, en premier.
Et Guy, c'est deux équipes différentes.
Guy, t'as de l'espoir pour le RC Lens demain?
Oui. Bah, au moins un match nul.
Au moins un match nul.
Oui, bah écoute, moi j'avais joué Lens
au match aller,
tu te rappelles, hein.
Donne bon, les pronostics,
là,
on sait jamais.
Là, ça va être un petit
peu.
Je pense que ça va être un peu plus compliqué quand même. Ça va être un peu plus compliqué. 2-0, 2-0 pour Arsenal. Je pense que ça va être peut-être un peu plus compliqué là. Peut-être.
Je pense que si Saka ne sort pas sans blessure, c'est pas le même match au match aller.
Ouais. Papier,
je suis d'accord avec ça.
Oui, mais bon, c'est le foot.
Personnellement, je vois quand même Arsenal gagner.
De l'espoir pour le RC Lens, non?
Peu, hein, le plus grand souci du RC Lens, je pense que c'est son banc de touche. Hein. Une fois qu'on sort du 11 titulaire et qu'on commence à faire des changements, ça devient tout de suite très compliqué. On sent qu'il y a quand même une différence de niveau. Après, demain, je vois quand même très 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 mal à Lens aller gagner à l'Emirate. Même si Arsenal n'est pas forcément flamboyant comme la saison passée cette année. Il y a un peu plus de difficultés. Mais avec Saka qui joue 90 minutes... Odegaard en grande forme, je vois pas Lens gagner quand même. Mm-hmm. Allez, mérite.
Salé, le RC Lens qui revient très très bien en championnat pour autant. Hein. Est-ce que tu crois que finalement ça leur donne un regain de confiance pour affronter les Gunners demain?
Franchement, il n'y a rien à dire en championnat. Ils font une belle remontée. Mais là, demain, Arsenal, ils gagnent, ils sont qualifiés. Et je pense pas qu'Arsenal va prendre de risques. Demain, ils vont tuer le match très rapidement pour valider leur qualification. Et je pense que. Bon.
Arsenal a besoin d'un point pour être qualifié.
Bah, je pense qu'ils vont pas se casser la tête et vont chercher la victoire s'il le faut. Après,
pour toi, c'est on remet les pendules à l'heure, la correction d'entrée de jeu.
Pas correction, je dirais pas ça, mais je pense qu'Arsenal ils sont quand même largement favoris. Mm-hmm. Voilà. J'espère que Lens va faire quelque chose, mais.
Bon Stéphane des Enclos.
Ils seront là, c'est déjà ça.
tu mettrais une pièce sur le RC Lens
Non. Je mettrais même. Pour parier, essayer de gagner un peu d'argent, peut-être sur l'élimination directe de Lens demain soir.
Déjà,
ben c'est pas possible qu'il soit
déjà, c'est mercredi. Déjà, c'est mercredi.
Je crois que c'est un huitième de finale retour.
Donc, t'as faux là. N'écoutez pas Stéphane, il a déjà faux là. Il a dit demain. C'est pas demain. C'est Paris qui joue demain.
On a vu ses vidéos. On a vu ses vidéos. Si
ils perdent à l'Emirate et que le PSV gagne à Séville, ils sont éliminés. Ils se battront dernier match pour la.
Mais d'ailleurs, Stéphane, justement, tu gardes la parole. Tu as eu l'ex-président Lensois cette semaine, Gervais Martel. La bande sonore que tu nous as envoyée n'est pas terrible. En deux mots, qu'est-ce qu'il t'a dit?
Sur le match de Lens.
Oui, sur justement la probable qualification du RC Lens.
Lui dit que c'est possible, mais la même chose que moi, il dit que de toute façon tout se jouera plus entre Séville et le PSV Eindhoven, sans que si le PSV Eindhoven gagne à... même avant sans que je lui pose la question de savoir, il m'a dit si le PSV Eindhoven gagne à Séville, à ce moment-là on est viré, l'air de dire qu'il voyait pas trop Arsenal. Maintenant il l'a connu, hein, c'était le président du RC Lens quand la dernière fois que Lens a été gagné à Arsenal, et il me rappelait que le match d'après il restait un match contre Kiev à domicile, et que ils se sont fait battre, ils ne sont pas passés, puis du coup ils ont gagné à Wembley à l'époque, joué Arsenal, et ils ont perdu à domicile après. Donc ça a été très compliqué. Donc ça va être compliqué maintenant tout peu. Donc voilà ce qu'il dit. Mais lui il est confiant, et surtout il est confiant. Et il dit que même à l'avenir, Lens, il y a des bons joueurs, il y a un bon
actuellement. Il y croit dans tous les cas. Il y croit.
Voilà, exactement.
Ok. Bon,
le boulot est bien fait. Hein.
Oui, merci Stéphane. Les amis, à présent, l'Europa League, hein, toujours en Coupe d'Europe. Cette fois-ci, on va évoquer Marseille, encore une fois, qui va se retrouver face à Ajax Amsterdam, qui va de mieux en mieux. Est-ce que ce coup-ci, vous pensez que Marseille peut continuer son beau périple qu'il a entamé depuis au niveau de l'Europa League, Ibrahima?
Beau périple, je te trouve quand même assez sympa.
Pour l'instant, ils sont leaders de leur poule.
C'est sûr, oui. Mais c'est deux victoires face à Athènes. Ils auraient pu gagner face à Brighton, ils se font remonter, je ne sais pas comment. Et un match nul venu d'ailleurs aussi face à Amsterdam. Maintenant, par rapport à demain, jeudi plutôt, je vois quand même un match nul. Parce que l'Olympique de Marseille ne me rassure vraiment pas ces derniers temps. En championnat ou même en championnat surtout. Et l'Ajax revient plutôt bien. Ils ont remporté 5-0 ce week-end face au Vitesse Arnhem, qui est dernier de Redivisie. Mais il y a quand même de bons joueurs à Amsterdam. Ils reviennent bien. Et je vois un match nul ou une défaite de l'OM. Mais je ne vois pas l'OM remporter demain, jeudi au Vélodrome face à Amsterdam.
Mais là, qu'est-ce que l'Ajax fait qu'il ne faisait pas en début de saison, qui justement la conséquence de cette remontada, si je puis dire?
Honnêtement, je regarde pas spécialement les matchs de l'Ajax en ce moment, mais je pense que déjà ils ont changé de coach. C'est déjà quelque chose, où, parce qu'avec l'ancien coach, ça avait du mal. J'avais regardé les matchs et franchement, c'était pas fameux dans le jeu, alors que l'Ajax, on les connaît à chaque fois virevoltant sur un terrain et qui donne du jeu, mais on ne l'avait pas vu ces derniers temps. Je pense que là, ils ont dû retrouver leur jeu. Attention, moi aussi, je partage l'avis d'Ibrahima, où je pense que Marseille ne vont pas battre l'Ajax d'Amsterdam. En tout cas, du moins, ça m'étonnerait fortement. Je pense que l'Ajax d'Amsterdam vont gagner et se redonner des couleurs pour ce match.
Guy, tu penses la même chose aussi? Oui, Marseille n'a pas de chance?
Je sais pas qu'il n'a pas de chance, mais bon, vu ce qu'on a vu ces derniers temps, et contre Strasbourg par exemple, je vois pas mal Marseille gagner contre l'Ajax, non. Non.
Mm-hmm. Mais, Philippe?
Ouais, un petit match nul, je pense, ouais, moi aussi. Nul à domicile pour les Marseillais. Mm-hmm. Ils y sont habitués.
Salé, tu penses que avec les résultats observés en Europa League, Marseille va garder quand même son statut en Europa League face à l'Ajax?
Moi, je pense que l'Ajax va. Moi, je pense que l'Ajax va s'imposer. Parce que t'as posé une question, t'as dit est-ce que Marseille devrait s'inquiéter de la remontada de l'Ajax? Je pense que c'est plutôt Marseille qui doit s'inquiéter de leur niveau de jeu. Et je pense que ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas dans quel état d'esprit ils vont aborder ce match. Mais pour moi, en tout cas, ils ne vont pas faire l'enfeu face au PSG.
Abou, on a l'impression que Marseille est beaucoup plus libéré en Europa League. Est-ce que c'est le sentiment que tu as aussi?
Pas plus libéré, je sais pas. Moi, ils m'ont quand même fait peur beaucoup de fois cette saison. Mais en tout cas, c'est un club qui, miraculeusement, est encore invaincu à domicile depuis le début de la saison. Donc, autant l'année dernière, le Vélodrome, t'as l'impression, c'est là où ils prenaient le moins de points. Ils prenaient plus de points à l'extérieur qu'à domicile. T'as l'impression que le Vélodrome, il leur faisait peur. Autant, cette année, t'as l'impression que le Vélodrome, c'est une forteresse. C'est un peu comme un bébé qui, quand il est loin de sa maman, bah, il est triste. Bah, là, il est auprès de sa mère, il est un peu plus rassuré. Et dans ces moments de doute, c'est bien d'être proche de sa mère. Donc, c'est bien d'être à la maison. Et moi, je pense que je vois pas l'OM s'imposer face à l'Ajax, mais je me souviens du match aller face à l'Ajax, et c'était déjà un Ajax pas flamboyant qui quand même leur a fait énormément de mal. C'est un Ajax avec des joueurs virevoltants qui vont partout, des jeunes. Je pense qu'il y a ça aussi, le problème à l'Ajax c'était ça, c'est que c'était des jeunes joueurs là qui s'imposent petit à petit au fil de la saison. Donc je pense que ça va être un match très très compliqué pour l'OM. Il faudra que Paul Lopez et les deux latéraux soient bien lunés, pareil pour Mbemba derrière. Et moi je vois même l'Ajax s'imposer au Vélodrome, mais c'est tout ce que je souhaite pas à nos amis Marseille.
Mon cher Stéphane, rapidement.
Ouais, bah moi je suis un peu pareil maintenant.
C'est bon, l'OM va gagner.
L'OM va profiter de la faiblesse de ce groupe, parce que ça va être compliqué quand même pour l'Ajax de remonter. Ils sont à 6 points, donc s'ils peuvent en gagner leurs deux matchs, mais ça va être très très compliqué. Puis là, avec Athènes, ils vont perdre leur dernier match, donc ils vont se qualifier probablement sûrement. L'OM, en tout cas, momentanément, je ne les vois pas non plus. Ou le foot est vraiment complètement fou, quoi. Parce que si l'équipe qui a joué à Strasbourg, ou l'équipe qui a joué la deuxième mi-temps à Nice, par exemple, arrive à battre l'Ajax, alors là, ça, là, c'est vraiment c'est un truc de fou, quoi.
Merci Stéphane. À présent, les amis, on va aborder l'équipe de France à travers Jonathan Klaus. Les amis, Jonathan Klaus, il est en pleine bourre en ce moment, en club comme en sélection. L'équipe de France a-t-elle enfin trouvé son latéral droit? Mon cher Jason, vu le temps imparti, on va procéder par un 30 secondes chrono, encore une fois, afin que chacun donne ses impressions par rapport à Jonathan Clauss. Est-ce que vous pensez, les amis, que Jonathan Clauss, finalement, est bien parti pour participer à l'Euro qui arrive en Allemagne? 30 secondes chrono, mon cher Abou.
Ah, Jonathan, mais déjà, moi, je voudrais faire une déclaration d'amour à Jonathan. Jonathan, je t'ai beaucoup critiqué, j'ai été dur avec toi, mais c'est vrai qu'à tes débuts, en équipe de France, t'étais pris par les émotions, Jonathan. On dirait un enfant qui découvrait un nouveau jouet. Là, j'ai l'impression que tu t'es un peu plus remis dedans. T'as pris conscience que t'étais un joueur de qualité, que l'équipe de France était une équipe où t'avais ta place. Je suis donc content, Jonathan, que t'aies pris conscience de tout ça. Je suis content, Jonathan, que t'aies arrêté de pleurer. Je suis content, Jonathan, que t'arrêtes de rêver de l'équipe de France quand tu dors la nuit. Et je pense que oui, tu es le titulaire, le latéral titulaire de l'équipe de France, et tu seras pour l'Euro, en tout cas, le titulaire.
30 secondes, Abou, 30 secondes.
Jonathan, il mérite un peu plus.
30 secondes chrono, Ibrahima. Feu de paille ou feu de longue durée pour Jonathan Clauss? C'est pas
longue durée. Non, Jonathan Clauss, bah moi personnellement, je pensais qu'il allait même faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France à la dernière Coupe du Monde. Quand on voit qui a son poste, sincèrement, je pense qu'on peut pas ne pas l'appeler. Enfin, on a quand même Jules Koundé, on a vu sa dernière prestation face à la Grèce où c'était catastrophique. Benjamin Pavard qui depuis un certain moment, on ne sait plus trop s'il est joueur de foot ou pas. Donc je pense qu'il va falloir, oui, Jonathan Clauss, à un moment donné, c'est le choix qui se présente devant Didier Deschamps. Il va falloir qu'il l'appelle et qu'il le sélectionne. Qu'il soit titulaire en équipe de France, tout simplement.
Mmh. 30 secondes chrono, mon cher Philippe.
Eh bien, écoute, je pense que oui, Clauss sera l'Euro. Ça, c'est aucun problème. Il est en pleine bourre actuellement. Après, dans la durée, est-ce qu'il durera? Ça, c'est un autre problème. Après, on a eu des arrières droits qui sont passés et puis qui ont disparu. Bon, c'est juste sur une période donnée. Mais oui, Clauss, pour l'instant, c'est le meilleur arrière droit français, pour le moment.
Pour l'instant, vous êtes unanime. Hein.
Pour l'instant,
Guy,
pour l'instant.
Est-ce que ce sera la même chose pour toi? C'est parti.
Tout à fait, tout à fait. En plus, Clauss a une qualité, c'est que ton contre-attaquant, il aime bien monter balle au pied. Jouer, et il a une deuxième qualité, c'est qu'il tire de loin. Et ça, ça manque un peu.
On l'a vu ce week-end à Strasbourg. Et il a une bonne qualité de centre aussi.
Et une bonne qualité de centre également.
Tout à fait. Salé. Jonathan Clauss en équipe de France, titulaire, ça te parle ou pas?
Ouais, franchement, ça me parle. Depuis le début de saison, il fait un très bon début de saison avec l'Olympique de Marseille. On en avait parlé dernièrement quand j'étais présent. Pour moi, il est à sa place. Maintenant, à lui de continuer dans ses efforts et de ne pas se relâcher et nous montrer qu'il a vraiment sa place. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de concurrent qui puisse le bousculer. Et pour moi, j'espère qu'il va continuer comme ça. Et pour moi, il n'y a rien à dire.
Eladj, Jonathan Clauss, t'es convaincu ou pas?
Bon, franchement, convaincu, oui, mais après, je vois tout le monde autour de la table dire « Oui, moi, je pense qu'il n'y a pas débat, il faut le mettre à droite, etc. » Maintenant, il faut citer les noms de qui vous voulez mettre à droite, si ce n'est lui, parce qu'il n'y a personne d'autre, à part Simakan, je pense, qui peut le concurrencer, mais Simakan est loin des Bleus et de l'équipe de France encore pour l'instant, mais on espère que Didier Deschamps l'appellera aussi prochainement. Après, à vous, qui est très content de Jonathan Clauss, parce qu'il a marqué avec l'OM, hein, c'est pour ça. Mais voilà. je suis très content parce que j'ai été très critique avec le joueur à ses débuts en équipe de France, et vraiment, j'ai été très très dur avec lui. J'estimais qu'il n'avait pas le niveau pour l'équipe de France, et je suis content qu'il ait haussé le niveau.
Le quotidien du sport représenté par Stéphane Desenclos. Jonathan Clauss, ouais. Convaincu ou pas en sélection nationale? 30 secondes.
Aujourd'hui, c'est clair, mais le foot, ça va très vite. Hein. Et vous parliez d'éventuels concurrents. J'en ai un, par exemple, entre autres, et éventuellement Nordi Mukiele, par exemple, qui peut très bien jouer à ce poste-là. Même Benjamin Pavard qui peut revenir. Il a eu quand même le brassard de capitaine à court instant il y a un mois quand il était sur le terrain. Donc il est plus si fâché que ça avec Deschamps. Mais je vois mal Deschamps prendre Koundé, Pavard et Clauss. Donc il faudra qu'il en sacrifie un, sans penser qu'il y en ait un autre. Alors, aujourd'hui, oui. Mais dans 6 mois, moi, je ne ferai pas mon pari qu'il y soit. Vous savez, vous avez Amicadine qui a fait tous les matchs entre les grandes compétitions. Et à part, je crois, l'Euro 2020, il a pas fait une grande compétition avec les Bleus.
Merci pour ta minute chrono.
Merci. Stéphane, il respecte jamais les 30 secondes. C'est quelque chose de fou quand même.
Il y a un peu de favoritisme quand même. Je ne comprends pas comment toi tu viens me couper.
Moi, je faisais une lettre d'amour à Clauss, on m'a coupé. Mais lui, il veut rappeler Bakary Sagna en équipe de France, on le laisse dérouler.
Oui, ça l'est rapide.
Je veux juste rajouter, il y a un joueur que je suis.
Sacha
Boué. Ça fait un petit.
C'est ça, exactement. Ouais, je savais. C'est qui?
Sacha Boué de Galatasaray. l'air droit, franchement.
Avec les locks là, oui.
Ah ouais, tout à fait. Franchement, il fait des belles performances et
peut-être qu'il faut qu'il change de club aussi.
Ouais. Il a un peu de mal avec la Turquie.
Ceci explique un peu cela, j'imagine. Les amis, on arrive déjà au terme de cette émission. On va malgré tout évoquer le cas du Brésil. Le Brésil ne se porte pas du tout bien. 3 défaites consécutives, 6e des qualifications. Il y a Neymar qui n'est pas là, il n'y a quasiment pas de sélectionneur. Est-ce que vous craignez la non-qualification de la CLCAO pour la Coupe du Monde 2026? Là encore, je veux vos avis de façon directe et précise.
Non. Philippe.
Vas-y.
Moi, je pense que ce serait une véritable catastrophe mondiale.
Ah oui.
Si le Brésil ne se qualifiait pas, c'est la première fois que ça arriverait. Mmh. Ils ont été à toutes les phases finales de Coupe du Monde.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça aujourd'hui, Abou ?
Il n'y a pas de coach. C'est tout simplement ça.
Il n'y a que ça, ça suffit. C'est suffisant.
Quand on veut faire avec un intérimaire, l'intérimaire, au bout d'un moment, il fatigue. Il n'y a pas, y a pas de sélectionneur au Brésil et c'est le problème. Mais si le Brésil ne se qualifie pas dans une Coupe du Monde où il y a 280 000 pays,
voilà.
Faut se poser des questions. Là, il y a même des pays qui ne l'ont jamais fait qui vont sûrement se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. C'est impossible que le Brésil n'y soit pas. Moi, je pense qu'ils vont se qualifier.
Ric-rac, je suis d'accord. Ils vont peut-être même passer au barrage parce que je crois que c'est les 4 premiers ou 5e qui se qualifient. Les 4 premiers. Non, les 6 premiers. Donc ils sont qualifiés, le Brésil, alors.
Et là, ils sont 6e.
Ah bah c'est bon, non ? Ah bah c'est bon. Ils vont passer Ric-rac.
C'est pas qu'il y a eu l'idée de ce débat, mais.
Ils vont passer Ric-rac, alors. Non, mais c'est bon. Parce que je pensais que c'était les 5 premiers au début et qu'il y avait un barrage.
Le principe qu'à la limite, le Brésil doit se retrouver soit avant l'Argentine ou juste après
l'Argentine. Oui, mais l'Argentine l'a déjà fait aussi. Ils sont passés une fois Ric-rac.
L'Argentine tient son rang, 15 points. Là où, effectivement, le Brésil n'a que 7 points.
Oui, bah.
Et le Brésil se retrouve en 6e position.
Si ça se trouve, ils seront champions du monde, alors.
Parce qu'on a des équipes quand même comme l'Équateur, la Colombie, qui essaient de carburer assez fort. Hein.
Oui, vrai.
Bah, moi, je pense que le souci, c'est tout simplement l'effectif qui a baissé en qualité. Côté brésilien, je trouve qu'il y a beaucoup moins de bons joueurs qu'auparavant. Et aujourd'hui, l'équipe de France regarde le Brésil droit dans les yeux et même au-dessus de l'équipe du Brésil, comme aussi, je pense que l'Angleterre aussi est au-dessus du Brésil. L'Argentine, ils l'ont prouvé récemment. Aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes au-dessus du Brésil. Ils ont même perdu contre le Sénégal. Enfin, je veux dire, c'est pas. Aujourd'hui, il y a un réel souci de joueurs au niveau du Brésil. Et surtout d'attaquants, où Gabriel Jesus ne fait pas le boulot. Richarlison, je préfère pas en parler. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'attaquants de haut niveau du côté brésilien, ainsi qu'un remplaçant à Neymar concret, ça risquera d'être compliqué pour se qualifier. Hein.
Est-ce que cette équipe, justement, ne s'est pas trop européanisée aussi, Eric ? Est-ce qu'elle joue le football?
Ah, c'est le problème.
C'est le problème, c'est tout le problème. Mais le problème, justement, c'est le coach.
Longtemps.
C'est le coach qui doit faire, qui retourne aux sources et qui retourne jouer comme ils savent si bien le faire. Mais voilà, comme on a dit, avec un intérimaire, c'est compliqué. Et avec la blessure de Neymar aussi, parce que moi, je pense qu'il y a une indépendance. Neymar aussi avec le Brésil, en tout cas dans les gros matchs, ils peuvent s'en passer pour un match, deux matchs, mais au fur et à mesure, c'est très compliqué, ça devient très compliqué sans Neymar.
Mais moi, je vous dis, franchement, les amis, si le Brésil ne se prend pas en main, ça va être très, très, très compliqué.
Non, ils vont passer, ils vont passer.
Ils vont se qualifier.
Oui, ils vont passer, Ric-rac, mais ils vont passer.
Je pense. Ils vont passer. Non, mais vous souhaitez qu'ils passent, mais dans le contenu.
Ils vont passer.
Les amis, je vous dis, dans le contenu.
Oui, oui, mais il y en a d'autres.
Tu regardes Bolivie.
Oui, il y en a d'autres, des équipes qui sont passées sur moi.
Alors, quand on voit le Brésil à cette place-là, on est un peu effrayé. Mais bon, je pense pas que je crois qu'il y a le Pérou, Paraguay, la Bolivie.
C'est pas facile d'aller gagner là-bas.
Je pense pas.
Mais non, les amis, c'est comme les éliminatoires en Afrique, en Amérique du Sud, en Afrique. Mais c'est pas toujours le meilleur qui gagne.
C'est pas le meilleur.
L'environnement, il est différent.
Oui, mais
c'est vrai. Mais le Brésil connaît. Ils sont qualifiés à toutes les Coupes du Monde.
Oui.
C'est pas comme si c'était nouveau pour eux. Et après, le Brésil, ça fait, comme il a dit, je rejoins Ibrahima, c'est l'effectif, il a franchement. C'est plus le Brésil d'avant, ça fait plus peur, ça fait plus rêver.
Mais ça fait longtemps.
On le voit sur les dernières compétitions, ils n'arrivent pas à se qualifier dans les derniers carrés. Et même en Copa, je crois, c'est pareil.
C'est compliqué.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vraiment là, je pense qu'on est.
Mais le Brésil, c'est sur 5 matchs, c'est 3 défaites. Hein.
Oui, ça va se qualifier. Il y en a encore d'autres des matchs.
Vous êtes très optimiste. Hein,
oui.
C'est vrai que c'est juste.
N'oubliez pas qu'on a vu l'Italie ne pas se qualifier. Oui,
mais enfin, niveau européen, pas le même qu'au niveau d'Amérique du Sud.
Très optimiste. Hein,
attends.
Tout, hein.
L'Amérique du Sud, ça tourne autour de 3 pays. Hein.
On ponctue avec toi sur le Brésil.
Ouais, effectivement, c'est très chaud. Maintenant, ce qui peut les sauver, le Brésil, c'est que. Ce qui est d'ailleurs ce que je trouve qui est un peu. Pas forcément très honnête. Il y a 10 pays qui concourent pour se qualifier. Il y en a 6 qui sont qualifiés directement et 1 qui joue les barrages. C'est-à-dire qu'il n'y en a que trois qui ne sont pas qualifiés. Donc, c'est ce qui peut éventuellement les sauver. Mais même si c'est contre la Bolivie ou le Paraguay ou je ne sais pas quoi, le Brésil d'aujourd'hui, je le vois mal. On parle d'attaquant, Neymar qui est blessé, pas de grand attaquant, mais même derrière, depuis le départ de Thiago Silva, ils ont les latéraux et tout, quand tu regardes tous les
mêmes dernières années. Moi, je pense que vous êtes dans les souvenirs, les amis. Regarde un mec comme un joueur comme Vinicius. Je ne sais même pas s'il a plus de 3 buts aujourd'hui sur l'ensemble de ses sélections avec le Brésil. C'est terrible, hein.
Je crois que depuis la Coupe du Monde, je me demande s'il n'y a pas 29 joueurs différents. Quoi. Il y a un nombre de joueurs hallucinant qui est basé par la...
Bah oui, je suis d'accord. Si on peut faire un comparatif, je compare le Brésil aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais. Hein.
Oh non, quand même pas.
L'Olympique Lyonnais aimerait bien avoir Vinicius et Rodrigo.
Franchement, ouais, mais justement, Martinelli.
Justement, Vinicius, c'est la casette. Et Rodrigo, c'est Tolisso, tu vois. C'est un peu compliqué. Merci Stéphane. Les amis, on va terminer justement avec le championnat d'Europe 2024 en Allemagne. On connaît quasiment les pays qualifiés. 14 juin 2023, 14 juillet 2024. Le championnat d'Europe arrive. 10 stades, 24 équipes, tirage au sort donc le 2 décembre.
Samedi.
Ça va se dérouler du côté d'Hambourg à 18h pour ceux qui aiment les précisions. Les équipes qualifiées: Allemagne, Albanie, Angleterre, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Écosse, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse. Et la Turquie, encore, y a des équipes encore qui arrivent hein, au niveau des barrages. Et on aura donc peut-être la Pologne, la Bosnie-Herzégovine, le Luxembourg, Israël, la Grèce, le Kazakhstan, l'Estonie, l'Ukraine, le Pays de Galles, l'Islande, l'Irlande ou même la Finlande qui vont venir justement compléter ces 21 équipes. Donc on sera donc à 24 équipes. Quel est votre pronostic, les amis? On est très 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 loin, c'est vrai, de la Coupe d'Europe, mais on aime s'amuser dans le bout du foot. Vos pronostics.
Allez, les bleus, nos bleus.
Hein, les bleus,
nos bleus.
La France, oui.
Oui, oui.
Vous avez oublié la défaite face à la Suisse, là,
Oui, mais justement.
Ça va servir de leçon.
Ouais, ouais, justement.
C'est malheureux, mais ce sera les Anglais de Gareth Southgate.
Je pense aussi.
Ah, toi, tu penses à l'Angleterre.
Tu penses que les enfants.
Allez, toi. Vainqueur final. Je pense. On est loin, mon Samu.
On est loin, mais je ne m'aime pas sur l'équipe de France. Après, l'Angleterre.
Avec un
ils ont toujours des gros effectifs. Mais
on dit toujours ça, bien sûr.
Cela dit, il n'y a pas une seule grosse équipe sur le tapis. Là.
Ouais. Ouais, y en a
elles
beaucoup,
sont toutes là.
Ouais. Mais l'Allemagne n'est pas très très en forme. Mais bon, elle joue,
ouais, mais attention quand même.
Elle joue chez elle.
Mais bon, ça sera la France.
Ton favori pour cet euro.
Mon favori, moi, c'est les Trillions. C'est ça, c'est comme ça. Trillions. Exactly.
Pourquoi pas.
Jude Bellingham et Harry Kane. Je pense qu'ils vont tout déchirer, les Anglais.
Regarde, on jouait pas l'Italie il y a 3 ans. Et puis, ils ont été champions d'Europe.
Tristesse pour Erling Haaland qui va pas se qualifier. Moi, je suis triste pour lui. Il me fait de la peine. Mais vraiment, genre, je suis vraiment.
Il devrait changer de nationalité.
Bah déjà, on sait qu'il aurait dû prendre l'Angleterre, il est né là-bas.
Stéphane,
on sait qu'il n'aura pas le ballon d'or.
Stéphane, ton favori pour cet Euro 2024?
Bah moi j'en ai deux, mais c'est quand même c'est loin. C'est le foot, c'est la France ou l'Angleterre. Après, ça dépend du tirage et surtout du tableau. Quoi. Quand je dis le tirage, c'est pas le premier tour, hein, c'est le sens du tirage. Quoi. Une finale France-Angleterre, ça serait merveilleux. Quoi.
Mais tête de poule, les deux pays cités sont tête de poule. Hein.
Oui, je sais, mais je ne sais pas s'il y en a qui se retrouvent en bas, en haut, est-ce qu'ils peuvent se rencontrer avant la finale. Sinon, ça serait une finale France-Angleterre, ça serait l'idéal quand tu regardes le niveau des équipes aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus condamner trop vite le Portugal, qui va avoir son mot à dire quand même, le Portugal. Ce qui fait le coach, c'est pas mal. Apparemment, il a bien utilisé... Ronaldo et obtenir le mieux de lui.
Ce sera peut-être l'occasion pour Ronaldo d'avoir son dernier ballon d'or, hein, sait-on jamais.
Et attention à l'Allemagne, hein, c'est toujours dangereux des Allemands chez eux. Attention quand même.
N'est-ce pas. Merci en tout cas les amis d'avoir été présents aujourd'hui dans Au bout du foot, Stéphane Desenclos, Elhadj, Ibrahima, Philippe Carnu, nos invités, Guy Misselin, Salé, Jason Lindor, réalisé aujourd'hui Au bout du foot, accompagné...
De Léonard.
Merci à vous, Stéphane. Lundi, on te voit en studio, lundi prochain, j'imagine.
Oui.
Il n'a pas bouclage, lundi.
Il n'y a pas bouclage lundi, n'est-ce
c'est
pas
C'est plus facile pour te couper non, la parole.
J'avais complètement oublié une fois par mois un bouclage du magazine Le Foot. D'ailleurs, tout ça a acheté à partir de samedi dans les kiosques.
Ça marche.
Et je ne peux pas me permettre, j'habite pas tout près de Paris et ça me fait perdre pratiquement toute l'après-midi.
Ça y est, on connaît toute sa vie là. Salut les amis, bonne soirée, ciao, à lundi.
Au bout du fou, 20h30, 22h, Malik Eudi. Au bout du foot, 30 secondes chrono. Au bout du foot, quel choix pour quel résultat. Retrouvez chaque lundi Malik Eudi et toute la team d'Au bout du foot entre 20h30 et 22h sur mon Paris FM.